Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Puigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?
Alors, on va prier. Excellent Père de gloire, je viens te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies respectives, pour tout ce que tu fais dans notre pays, tout ce que tu fais dans ce club, pour tout ce que tu fais dans les vies un peu partout Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de ta grâce, nous ne sommes pas dignes de ta faveur, mais absolument fidèle, tu es là toujours avec amour, toujours avec patience, en train de nous édifier, de nous fortifier, de nous encourager, de nous faire porter des fruits. Qu'il te plaise Seigneur d'accepter maintenant nos actions de grâce pour cela. Merci Seigneur pour le groupe qui vient de passer, merci pour ce que tu as entrepris dans leur vie. Donne-leur d'être des témoins de ta parole, donne-leur d'apporter la bonne nouvelle dans la joie et dans l'humour, partout où cela pourra servir à ouvrir des cœurs, là où d'autres moyens ne servent pas. Car tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qu'il te plaise dans tous les cas de multiplier la récolte Seigneur. Nous venons encore t'invoquer ce soir, Seigneur. Comme toutes les fois, tu es là avec nous. Je te remercie, Saint-Esprit. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu disposes des cœurs. Merci parce que toi qui connais ce dont chacun de nous a besoin, tu nous équipes maintenant, tu nous utilises maintenant pour dire quelque chose à chacun de nous, pour guérir chacun de nous, pour apporter un grain de sagesse supplémentaire, une solution de plus, une parole de vie à quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Nous savons que tu es là, comme toujours. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Nous savons que tu es là, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Nous te disons merci. Amen. Alors, des questions par rapport à ce qu'on a vu depuis hier, ce qu'on est en train de voir depuis maintenant trois séances sur la sagesse? Des questions? Parce que le but aujourd'hui, c'est de continuer en fait à... On ne finira jamais, on l'a dit très clairement hier, de parcourir la sagesse. La sagesse étant la connaissance de la vérité, des vérités. Non pas comme chaque chose ayant plusieurs vérités, un peu comme le fait le monde, mais de connaître les différentes vérités essentielles qui ont rapport, comme nous l'a dit le dictionnaire, au monde, à l'humanité et à Dieu. Il ne s'agit pas, j'insiste là-dessus, pour ceux qui n'étaient pas là aux dernières séances, de chercher, comme le fait le monde dans une démarche spéculative, à faire de la philosophie, relativisant tout, étant capable de démontrer que les choses sont à la fois vraies, fausses et non vraies, ni fausses. Bref, la théorie de la thèse et de l'antithèse, pour donner la synthèse, c'est une grosse bêtise. La vérité est une et unique. Quand on est obligé de se balancer entre la thèse, l'antithèse et la synthèse, c'est qu'on ne connaît pas la vérité. Je crois qu'on devrait simplement dire qu'on ne connaît pas la vérité au lieu de perdre du temps. Et on ne devrait pas être récompensé pour avoir fait de la philosophie au lieu d'accéder à la vérité. Et la vérité vient du fabricant. Personne ne peut donner la vérité sur un médicament si ce n'est pas son fabricant. Personne ne peut donner la vérité sur une machine si ce n'est pas son fabricant. Et je ne trouve pas très intelligent de laisser le mode d'emploi laissé par un fabricant pour aller spéculer, faire de la philosophie, afin de trouver comment ce qu'il a fabriqué devrait marcher. Surtout quand tant le fabricant n'est pas mort, il n'est pas en train de dormir, il n'est pas en train de se reposer, vous n'avez pas demandé rendez-vous qu'il ait refusé. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas simplement vous fier au mode d'emploi laissé par celui qui a fabriqué son monde, celui qui a fabriqué l'humanité, et que vous jonglez pour faire fonctionner ce qu'il a fabriqué. Le pire, c'est que tout ce que nous essayons ne marche pas. Nous voyons tous que ça ne marche pas, mais nous continuons de tourner en rond comme si ce qui ne marche pas depuis des millénaires finirait par marcher. Acquérir la sagesse, c'est revenir à la vérité. Comprendre les choses comme elles sont. Et la source de la vérité, il n'y en a pas deux, c'est Dieu. Et dans la Bible, nous avons l'essentiel de la vérité que Dieu a bien voulu révéler à l'humanité. Parce que nous avons bien vu que Dieu n'est pas obligé de tout révéler à tout le monde tout le temps. À lui, les choses cachées, aux hommes, les choses révélées. Donc Dieu, dans sa souveraineté, révèle à qui il veut, comme il veut, avec le niveau de profondeur qu'il veut, ce qu'il veut. Bien entendu, plus vous connaîtrez ces vérités, plus vous connaîtrez Dieu, plus vous connaîtrez les lois de Dieu, les modes opératoires dans lesquels Dieu veut que les choses fonctionnent, et plus les choses fonctionneront bien pour vous. Et c'est un peu ça le sens de mes plus importants combats. Et c'est ça la religion. La différence entre la religion et la foi est là. La religion, c'est un groupe d'hommes qui parlent de Dieu pour différentes raisons inavouables et qui promettent aux gens que s'ils font un certain nombre de rituels, de folklore et de cérémonial pendant qu'ils sont sur la terre, un jour peut-être viendra où ils verront Dieu. La religion se refuse ou avoue implicitement son incapacité à faire quoi que ce soit de sérieux et d'efficace pour les problèmes des gens aujourd'hui. C'est ça la religion. C'est un groupe de personnes qui parlent de Dieu, qui promettent Dieu, qui défendent Dieu, qui prétendent être prêts à mourir pour Dieu, mais qui sont incapables d'accomplir Dieu, de témoigner de Dieu et de dire aux gens qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Jésus n'est pas venu nous annoncer une religion. Il est venu nous dire que le royaume des cieux est arrivé. Un royaume, c'est une entité puissante, avec une capacité d'action, avec des finances, avec de la santé, avec de la sécurité, avec une armée. C'est un règne. On ne règne pas pour bavarder. On ne rêve pas seulement pour aller au culte tous les dimanches. On règne pour accomplir des choses. On règne pour gouverner son territoire. On règne pour construire. On règne pour édifier. Un chrétien qui ne sait que parler de Dieu, qui ne sait que prier, est un chrétien inutile. Jésus a été très clair. Quand un arbre ne porte pas de fruits, on le coupe. Je crois que depuis que beaucoup d'églises ne portent pas de fruits, il serait peut-être temps, à défaut de la couper, de se demander s'ils sont en train de faire ce pourquoi ils ont été créés. Ou elles ont été créées. Le chrétien doit démontrer qu'il est chrétien en démontrant qu'il fait et qu'il produit ce que Jésus dit qu'on produit. Mais ce que nous voyons, et c'est l'une des autres vérités qu'il faut connaître quand on parle de sagesse, c'est que Jésus a tout expliqué. Jésus est le cep. Nous sommes les sarments. Dit autrement, Jésus est le tronc d'arbre principal. Nous sommes les branches. Il dit que si quelqu'un n'est pas connecté, donc si nous qui sommes des branches, nous ne sommes pas connectés au tronc d'arbre principal, il est certain que nous allons mourir, nous ne sommes pas capables de porter des fruits. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils naissent peut-être du tronc principal. Ils grandissent relativement bien comme une branche. Dès que les premières fleurs arrivent, ou dès qu'on voit, si par exemple c'est un manguier, on voit les premières mangues sur la branche, on pense que la branche a du mérite, qu'elle est déjà productrice de mangue. On se dit qu'à cela ne tienne, pourquoi je passerai mon temps à rester connecté à l'arbre. On coupe la branche, on l'amène dans sa maison, en se disant que, qu'à cela ne tienne, c'est bien plus simple d'amener la branche où on veut, comme on veut, plutôt que de rester connecté au tronc. Le problème, c'est quoi? C'est que le jour où vous coupez une branche du tronc d'arbre, la branche ne meurt pas. Les feuilles restent vertes. Les fruits restent là-dessus. Pendant 2-3 jours, une semaine, vous pouvez même avoir l'impression que tout va bien. Quand brutalement, la branche se fane, dessèche et meurt. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé hier aujourd'hui? Pourquoi la branche qui était là hier, qui était bien verte, est morte aujourd'hui? Elle n'est pas morte hier, ni aujourd'hui. Elle est morte depuis que vous l'avez coupée du tronc d'arbre. Et c'est parce que vous êtes naïf que vous pensiez que, parce que la branche a beaucoup de mangue, vous pouviez vous permettre de la voler, de la rentrer dans votre maison et de continuer d'avoir des mangues. Ça ne marche pas. Vous n'êtes rien. La branche n'est rien. Elle n'est que la terminaison nerveuse du tronc. Connectée à l'arbre, la branche porte des fruits. Et tellement qu'on aime plus les branches qu'on aime le tronc d'arbre. Qui aime les troncs d'arbre? Personne. Mais les branches, tout en étant celles qui portent des fruits, ne sont pas les générateurs du fruit. Elles ne valent rien quand elles se déconnectent du tronc. C'est vrai que c'est plus simple d'être libre. Quelle branche ne veut pas aller où elle veut, au lieu d'être tout le temps rattachée au tronc? Ce qui limite sa mobilité. Les hommes veulent aller où ils veulent, faire ce qu'ils veulent, penser comme ils veulent. C'est bien tentant. Mais dès que vous quittez là où vous êtes mis, dès que vous quittez la croix, que vous commencez à rentrer dans des théories futiles, à agir parce que vous avez envie d'agir, à jouer la star parce que vous avez porté quelques fruits, parce que vous avez fait quelques miracles, parce que vous êtes capable de parler en langue. Dès qu'au premier fruit, vous pensez que vous pouvez faire des miracles et que vous êtes fort par vous-même, vous vous réveillez un matin et vous découvrez qu'il n'y a plus rien. Les gens qui sont conduits par le Saint-Esprit se rendent compte qu'il n'y a plus rien, ils partent rapidement. Mais certains qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit passent ces années-là à se dire qu'ils sont en communion avec Dieu, alors qu'il y a très très longtemps que Dieu a dit, bon, les gars, moi je suis parti de là, hein. Si vous n'avez rien à faire, attendez-moi là. C'est ça. Et c'est pareil dans nos vies. Nous ne pouvons rien faire si ce n'est pas celui qui nous fortifie. Et la force du chrétien ne vient pas de qui il est, ne vient pas de parce qu'il a tel don. Non, la force du chrétien vient de sa communion permanente avec le Seigneur. Donc, la seule chose qu'un chrétien devrait craindre, c'est d'être déconnecté du Seigneur. Parce que tant qu'il est connecté au Seigneur, rien ne peut lui arriver. Mais ce n'est pas ce que nous craignons le plus, c'est la première chose que nous faisons plutôt. Nous déconnecter du Seigneur. Quelqu'un a des problèmes d'argent, de travail, vous le voyez à l'église tous les jours. Je ne dis pas de passer sa journée à l'église, mais en tout cas, il semble s'intéresser particulièrement aux choses spirituelles. Trouvez-lui un emploi qui commence à gagner ses 4 000 francs par mois, il est trop occupé pour venir prier et pour venir écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à la première, au premier bougeon, sur sa branche, il y a ma branche est vivante maintenant, coupez-la, je vais aller où je veux. Quelques jours après, on revient à la case départ, non seulement les fruits sont morts, mais en plus, la branche est morte, il revient à la case départ, donc c'est encore pire qu'avant. Est-ce qu'on a des questions? Oui.
Oui, nous sommes au rendez-vous de la sagesse, de la connaissance. Et puisque nous avons réévoqué une notion tout à l'heure, je voulais vous faire part quand même de ma préoccupation sur cette notion, c'est-à-dire les notions de thèse, antithèse et de synthèse.
Allez-y.
Je crois que le système éducatif ou notre manière de travailler s'articule autour, à travers une thèse, une antithèse et une synthèse, autour du développement de l'esprit analytique ou l'esprit critique chez les apprenants. Ce que je voulais demander, est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Est-ce qu'on peut faire une nuance où votre philosophie ou votre théorie est absolue dans tout ce qui concerne thèse, antithèse et synthèse?
D'abord, je ne fais pas de la théorie. Je vous invite à regarder ce qui est écrit. Donc, ce n'est pas ma théorie. Vous voyez, à l'université, vous apprenez à tout raisonner en termes de théorie de X et de Y. Là, nous ne faisons pas une théorie. Nous parlons de la vérité, première chose. Deuxième chose, vous l'avez si bien dit, le système vise à développer, et je l'ai enseigné moi-même, ce qu'on appelle l'esprit critique. Voilà tout le problème. Pourquoi veut-on développer l'esprit critique par rapport à la vérité? Parce qu'on part du principe que personne ne sait ce qui est vrai, donc que notre esprit doit être capable de se balader de gauche à droite, cherchant à tomber sur ce qui est vrai. Parce que nous supposons que ce qui est vrai n'existe pas ou n'est pas connu, et qu'il nous faut le chercher. C'est ça qui est faux. L'esprit critique n'est rien d'autre que l'esprit de rébellion par rapport à la vérité. Ton papa te dit, je ne suis pas à la maison. Jusqu'à ce que je revienne, tu ne franchis pas le portail. Il s'en va avec tes frères, vous assez pour dire, mais est-ce que papa a raison? N'y a-t-il pas possibilité de sortir? Bon, il revient vers midi, et si on revenait vers midi et demi, ou on revenait à 11h, et puis bon, après tout, il dit ça parce qu'il ne veut pas comprendre la voiture, et si on allait à pied? Dès que vous commencez à utiliser votre esprit que vous appelez critique pour analyser, pour discuter ce que votre père a dit, vous êtes un garçon désobéissant, point final. Il n'y a pas de mérite à réfléchir aux consignes que son père a données. L'obéissance se définit comme la capacité à faire ce que son père a dit sans réfléchir. Parce que dans tous les cas, pour analyser quelque chose, il faut savoir les tenants et les aboutissants de la chose. Nous avons tous été enfants. Quand un papa dit à son enfant, tu ne feras pas telle chose, l'enfant croit de bonne foi par rapport à ce qu'il sait que son papa exagère. Parce que par rapport au peu de choses que la petite tête de l'enfant sait, et par rapport au peu de choses qu'il a vues dans la vie, il estime qu'il n'y a aucun risque là où son papa et sa maman, pour avoir vécu avant lui, voient déjà 1000 risques. Quand il fait le malin à l'adolescence, il croit que ça le rend fort, il ne sait pas ce que ça lui fait courir le risque de bousiller sa vie. Et c'est normal, à cet âge-là, il ne sait pas assez de choses pour pouvoir apprécier la vraie valeur des choses. De la même manière que vous ne savez rien du tout par rapport à ce qu'il faut savoir. Alors, est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui ne sait rien du tout par rapport à ce qu'il faut savoir analyse ce qu'a dit celui qui a tout fait, qui sait tout et qui a tout créé? Est-ce que c'est normal que celui qui ne sait rien du tout analyse ce qu'a dit celui qui a tout créé? Voilà l'imbécilité du système. C'est aussi imbécile de réfléchir à la parole de Dieu qu'il est anormal qu'un enfant de 2 ans voit si son papa a raison de dire de ne pas mettre la main dans le courant. Parce que lui dit, le courant c'est là, la prise est là, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi papa ne pas mettre mon doigt? Pour l'enfant, c'est logique, il ne voit pas pourquoi. Et justement, c'est ça qui lui plaît. Tant qu'il ne sait pas être occulté, dès que papa tourne le dos, son esprit critique lui dit, mets la main dedans. Parce qu'il est trop ignorant
pour savoir ce que son père fait. C'est pareil pour nous les hommes. Nous sommes tellement ignorants que l'évidence que nous allons au problème, nous ne le voyons pas. La preuve, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Avec toutes nos théories. Vous connaissez quelqu'un qui lance un programme, une stratégie, une philosophie, une théorie, en prévoyant que ça va échouer? Tout ce qu'on nous fait faire, nous le fait faire, nous promettant que ça marchera. Qu'il n'y aura aucun problème. Et toutes les fois, ça échoue. Ça veut dire que les gens qui ont promis ça ne savent pas de quoi ils parlent? Mais personne n'en déduit qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. On fait semblant de ne pas s'en rendre compte. Mais quand on revient à ce qu'a écrit celui qui a fabriqué le monde, je n'ai encore jamais vu quelqu'un qui a appliqué ça et qui se surprenne que ça ne marche pas. C'est quand même simple. Mais le problème, c'est que l'école nous a tellement programmés pour être rebelles que nous considérons que la rébellion donne de la consistance à notre vie. Ça ne nous donne rien. Le système moderne de sagesse est bâti sur le principe que la vérité n'existe pas. Et qu'après, bon, on fait du système D. Je comprends quelqu'un qui fait ça, toi qui ne connais pas la vérité. Mais on ne peut pas découvrir la vérité et continuer de se contenter de cette niaiserie-là. Moi, je le dis aux intellectuels, c'est de la niaiserie que d'affirmer. Écoutez, je n'arrête pas de le dire. Comment quelque chose peut être vrai, faux et les deux à la fois? C'est pas ça qu'on fait à l'école? Non, prenez le temps. C'est pas ça. Moi-même, j'ai fait une maîtrise. Ou bien, on fait la thèse. On affirme quelque chose. On cite les plus grands auteurs du monde. Et on démontre qu'ils ont raison de l'affirmer. On dit A est vrai. Dans le même devoir, le même étudiant, dans une deuxième partie qu'il appelle l'antithèse, affirme que c'est non A qui est vrai. C'est-à-dire moins A est vrai. Et il le démontre encore, il trouve encore des auteurs parmi les plus célèbres du monde avec des livres, des références pour démontrer que le contraire de ce qu'il voulait démontrer est aussi vrai. Comme si ça ne suffisait pas, il invente maintenant une bêtise au milieu des deux et il dit que selon lui, c'est ça qui devrait être vrai. Et on l'applaudit, mention honorable. Mais c'est des bêtises parce que dans la même université et dans toutes les universités, on nous enseigne que si A est égal à moins A, ça implique forcément que A est égal à zéro. Moi, j'ai fait des mathématiques. La seule manière que A soit égal à moins A, c'est que A n'est pas de valeur. C'est l'école qui nous l'enseigne ça aussi. D'après ça, toute chose qui peut avoir une thèse et une antithèse ne vaut rien. Je vous mets au défi de me trouver une antithèse de la parole de Dieu qui tienne. Donc, quand on ne sait pas, on peut se contenter de ces bêtises. Mais on ne peut pas continuer de se contenter de ces niaiseries-là quand on a découvert la vérité. On parle de lampions et d'huile rouge pour allumer les lampes quand on ne connaît pas l'électricité. On ne peut pas découvrir l'électricité et continuer de voir quelle quantité d'huile rouge on va acheter pour son lampion le soir. Surtout que l'électricité est gratuite. C'est même pas que la vérité maintenant, on demande à quelqu'un de payer pour ça. Bon, alors, où est le problème? Si ce n'est pas que Satan passe son temps à nous dire, mais pourquoi tu veux obéir à ce gars-là? Écoute-moi, essaie. Ce que vous dites là, c'est tout le débat du jardin d'Éden. Satan est venu dire à Adam et Ève, Dieu dit d'obéir. Pourquoi tu veux obéir? Réfléchis. Et la Bible dit, ils ont mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de ce que tu appelles l'esprit critique, l'esprit de discernement. Qui n'est rien d'autre que l'esprit de rébellion. Et la Bible nous dit, leur intelligence se sont ouvertes, ils se sont sentis nus. Le monde entier est nu aujourd'hui dans toutes ces théories. Pourtant, on pense que le monde n'a jamais été aussi intelligent. Vous ne voyez pas que le monde est nu? Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer maintenant, qu'on n'a jamais vu et qui marche? Donc, c'est tentant quand on les voit faire. Et vous savez, vous avez en face de vous quelqu'un qui est champion de ça. C'est pourquoi on ne peut pas me baratiner dessus. Si c'est pour faire de la philosophie, il y a peu de gens bénis qui peuvent me battre. Il n'y a rien dedans.
Merci. Je voulais juste préciser que je ne faisais pas allusion à la parole de Dieu. Moi, je ne réfléchis pas sur la parole de Dieu.
Vous réfléchissez sur quoi?
Sur ce que j'ai. Bon, ce qu'on apprend à l'école. C'est pourquoi j'ai fait allusion au système éducatif.
Et quelle est votre finalité rapport... en réfléchissant ici sur ce qu'on apprend à l'école? Quel est votre objectif?
Non, c'est parce qu'on a évoqué les notions de thèse, antithèse et synthèse que nous apprenons à l'école que je suis amené à poser cette question.
Non, je comprends votre question, mais la réponse est qu'on n'a pas cherché dans la balade la vérité. On n'a qu'à demander la révélation de la vérité. C'est-à-dire que c'est tout un système qui dit à nos enfants, vous devenez intelligents si vous vous baladez intellectuellement. Okay. Au lieu de leur dire, toute la vérité est écrite, allez la lire.
Oui, c'est vrai.
Donnez-moi une seule chose que l'école nous a appris, qui marche et qui ne soit pas dans la Bible. Parce que tout ce qu'on nous apprend à l'école n'est pas faux. Mais donnez-moi un seul principe qu'on vous a appris à l'école qui marche et que la Bible ne valorise pas. Vous allez voir que dans le monde d'aujourd'hui, tout ce qui tient est toujours d'inspiration divine. Même quand on dit les droits de l'homme et consorts, c'est une piraterie de la Bible. On dit aujourd'hui l'honnêteté, la justice, tout ça. Qui a inventé ça? C'est les hommes qui ont inventé ça? Les hommes essaient d'appliquer ce qu'ils n'ont pas inventé au lieu de suivre la méthode de celui qui l'a inventé. Celui qui a créé justice dit ce que ça veut dire justice. vous inventez des bêtises. Par exemple, on dit démocratie. On met les droits de l'homme. On mélange tout ça. Vous ne voyez pas que depuis qu'on parle des droits de l'homme, il y a de plus en plus de malheur pour l'homme? Vous ne voyez pas que plus on parle de démocratie, plus il y a de la dictature? Ou bien, c'est terrible, c'est effrayant, c'est difficile à admettre, mais nous sommes dans un monde qui ne vaut rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit que le prince des ténèbres de ce monde-là, c'est Satan. Je n'arrête pas de vous le dire. Le monde tel qu'il est là n'est pas dirigé par Dieu, hein, il est dirigé par Satan. Et regardez bien, nous sommes dans un grand jeu contrôlé par Satan. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent savoir qu'ils sont comme des commandos infiltrés en territoire ennemi. Un chrétien qui est sur la terre n'est pas en territoire conquis. Hein. Il est en terrain, c'est comme si tu es un commando américain quand tu lagues en Afghanistan. Tu n'es pas en territoire conquis. Tu marches sur des bombes et sur des mines tous les jours. Mais heureusement, tu viens d'un royaume souverain qui a la capacité de te faire triompher pour peu que tu restes en connexion avec ta base et que tu en respectes les règles. Si tu es un soldat américain que tu vas en Afghanistan et qu'au lieu de rester dans le quartier général américain, tu vas courir dans les quartiers de prostituées, c'est sûr que tu meurs. Parce que ton royaume ne peut pas assurer ta protection au-delà de certaines limites dans un territoire ennemi. Quand vous péchez, vous sortez de la zone de sécurité du royaume de Dieu sur les territoires ennemis de la terre. Parce que péché, c'est quoi? C'est devenir collaborateur de Satan pour faire ce que Satan veut que Dieu ne veut pas. Donc, chaque fois que vous péchez, vous demandez à un démon de venir vous aider à faire quelque chose. Quand vous invitez vous-même le démon dans votre vie pour vous aider à faire quelque chose, comment pouvez-vous ensuite souhaiter qu'il ne soit pas là? Parce que maintenant, il vous dérange. Quand Jésus parle et quand il parle d'attaquer Satan, il dit, mais moi, il n'y a rien de lui en moi. Jésus a de l'autorité parce qu'il n'y a rien de Satan en lui. Vous ne pouvez pas avoir de Satan en vous, aller aux soirées de prière et dire, au nom de Jésus, feu sur le Satan. Mais si Dieu vous écoutait vraiment, il y aurait beaucoup de feu sur les gens qui prient. Hein? Parce que la plupart des choses sur lesquelles ils invoquent le feu sont en eux. On dit, oui, que le feu du Saint-Esprit descende sur tous les jaloux, alors que lui-même, il est un jaloux à mort. Si Dieu devait exaucer sa prière, il va tomber la même mort en même temps. Ou bien, des questions? Oui, allons-y.
Bon, au fait, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une contribution. Quand je lève mon regard sur le monde, et tel que vous l'avez dit tout à l'heure, le monde est nu, il n'y a la connaissance nulle part, parce que la théorie existe. Mais cependant, vous voyez, mon inquiétude, c'est sur la jeunesse. C'est sur la jeunesse, qu'elle soit chrétienne ou non, la jeunesse court vers une perdition. Parce que la sagesse de Dieu que nous abordons depuis hier, la sagesse de Dieu a déserté le forum. Les pays qu'on nomme les plus puissants du monde sont puissants parce qu'ils se détournent de tout ce qui est sagesse. Ils courent derrière l'argent, ils courent derrière la suprématie. Comment dominer sur les pays qu'on appelle les plus pauvres, et la jeunesse est laissée, les enfants sont laissés. On ne veut plus, n'est-ce pas, faire face à leur éducation. Et tout est par terre. Alors, ça a emporté les pays les plus puissants, et ça s'est déversé sur les pays les plus pauvres. La jeunesse court vers sa perdition. La sagesse de Dieu, c'est vrai. Mais comment faire pour réhabiliter cette sagesse au sein de cette jeunesse qui court vers sa perdition par tout ce que nous voyons aujourd'hui, parce que le diable est si malin qu'il a su apprivoiser l'Internet, les journaux, la télévision, tout ce qu'il y a que l'enfant peut voir et s'identifier, et tout est corrompu. C'est grave, c'est une interrogation. Merci.
Merci. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout ça est écrit. Que ça se passera comme ça, c'est écrit. Moi, je ne suis pas pasteur, donc je ne peux pas vous dire dans quelle référence biblique Martin va vous trouver ça. Mais je sais qu'il est écrit que l'heure arrivera où le monde va être comme ça, fou, insensé. Les hommes couchant avec les hommes, on mariera les gays, l'impudicité sera la règle, la moquerie de Dieu sera la norme. Il est écrit qu'il arrivera un moment, et pire que maintenant, où ça se passera comme ça. Il est aussi annoncé que quand ça commencera à se passer comme ça, ce sera le signe que la fin approche. Dans un certain sens, aussi paradoxal que cela puisse paraître, tout ce qui arrive aujourd'hui, sans me réjouir, me rassure. Pourquoi ça me rassure? Ça me rassure de voir que la parole de Dieu est vraie. Parce que des choses comme ça, il est inimaginable humainement que quelqu'un ait pu les inventer par imagination au moment où la Bible a été écrite. Et la précision de ce qui arrive. Il y a encore 10 ans, on m'aurait dit que le monde entier, y compris des pays comme la France, marierait les gays. Je dirais que c'est impossible. À plus forte raison, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Mais c'est écrit. Tout ce qui se passe aujourd'hui est écrit dans des détails effrayants. À la différence que, comme l'a dit Jésus, les gens ont des yeux pour voir, mais personne ne voit. Des oreilles pour entendre, mais personne n'entendre. Un cœur pour comprendre, mais personne ne comprend. De peur de comprendre pour obéir, d'obéir pour être béni. Satan s'assure que les gens ne voient pas l'évidence. Parce qu'on se demande quand on connaît la Bible, mais comment les gens ne voient pas l'évidence? Quand on prend des phénomènes comme l'idiote qui se fait passer pour le Saint-Esprit au Bénin, c'est écrit, on appelle ça l'antéchrist. C'est différent du fétiche, du sorcier, que l'ennemi ira jusqu'à se faire passer pour Christ. C'est écrit qu'il aura de l'autorité, qu'il va influencer des gens, y compris des chrétiens, qu'il fera des signes, des prodiges, des miracles. C'est écrit. Donc, dans un certain sens, ce n'est pas très sage pour un chrétien, comme un païen, d'être surpris quand ce qui est écrit arrive. C'est regrettable, mais c'est écrit que ça arrivera. C'est rassurant que ça arrive. Parce que, hélas, ça nous rapproche de la fin. Et ça indique à ceux qui sont malins que l'heure s'approche, qu'il faut veiller. Ça, c'est la première chose. Donc, lisez l'Apocalypse, lisez la Bible. Vous serez surpris de voir à quel point tout ce qui arrive aujourd'hui est écrit. La deuxième chose, c'est qu'hélas, les choses ne vont pas s'améliorer jusqu'à la fin. Le monde va aller en s'empirant. Bon, il va vers sa fin. Et Satan va continuer de faire des victimes. Il continuera d'avoir les siens. Je crois qu'un chrétien n'a pas besoin d'attendre ou d'espérer le jour où le monde sera entièrement saint pour être heureux. Le chrétien doit comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes là comme des infiltrés pour préparer le règne de notre maître. Parce que dans tous les cas, c'est compté, il viendra. Il viendra balayer tout ça de revers de main et régner. Mais pour que cela arrive, nous qui sommes des infiltrés, des agents secrets infiltrés dans ce monde, nous avons une mission. Cette mission, c'est de sauver un maximum de personnes avant que l'heure ne sonne. Parce que tout ce qui se passe là peut se résumer en une phrase. Il y a combat à mort, mais celui qui va mourir ou qui est mort est déjà connu d'avance, c'est ça la bonne nouvelle, entre Dieu et Satan. Satan essaie de gagner le maximum de terrain possible, et Satan essaie de faire à Dieu l'affront, même s'il sait qu'il finira en enfer, d'entraîner en enfer le maximum d'enfants de Dieu. Pour bien comprendre ce qui se passe, imaginez que vous êtes un magistrat ou un président de la République, et vous décidez que, par exemple, tous ceux qui sont, je ne sais pas, tous ceux qui se droguent sont condamnés à mort, par exemple. Et vous en faites une loi tellement sévère que n'importe qui qu'il soit, même si c'est le fils d'un ministre, si on le voit avec de la drogue, on le tue. Et vous faites en sorte d'arrêter peut-être le plus grand trafiquant de drogue du pays, vous le mettez en prison, il sait que peut-être d'ici 2 ans, on va l'exécuter. Et ce type-là vous dit, c'est bien beau, moi je suis ici, dans 2 ans je vais être exécuté, mais d'ici là, je sais que toi tu es le père de nombreux enfants, tu as 20 enfants, tous tes enfants vont devenir drogués. Tu dis, moi-même, de mon vivant, mes enfants vont devenir drogués, on va voir ça. Et il dit, on va voir. De sa prison, alors qu'il est déjà vaincu, hein, il arrive à activer son réseau de petits trafiquants de drogue, les petits voyous. Il se fait qu'en plus, tu n'as que des filles. Et ces voyous-là vont séduire une à une chacune de tes filles. Tes filles que tu as bien éduquées, avec lesquelles tu fais le malin, dont tu es fier, se retrouvent à sortir, à fricoter avec ces drogués-là et à se droguer publiquement devant tout le monde. Voilà maintenant le pays te regarde. Toi qui dis que quand on se drogue là, on meurt. Voilà, toutes tes filles là sont en train de se droguer avec tous les drogués du pays. Mais elle est en prison, on va voir tu l'es. Il se fait que tu es président dans le cas d'espèce, tu es Dieu. Tu ne peux pas te renier. Si tu dis que quand on se drogue, on meurt, si elle se drogue, elle doit mourir. Voilà ce qui se passe. Satan fait à Dieu l'affront de dire tes enfants que tu as créés pensant qu'ils sont meilleurs que moi. Moi, je me suis rebellé, tu m'as condamné à l'enfer. Non, c'est bien beau. Tu crois que tes enfants-là sont meilleurs? On va voir. Premier père d'enfants, Adam et Ève, Satan vient ridiculiser Dieu. C'est du ridicule. Tu condamnes quelqu'un, tu dis que c'est un voyou. Et le lendemain, il commence à sortir avec ta fille. Est-ce qu'on peut faire un plus grand affront que ça à quelqu'un? Prenez le temps d'y penser. Souvent, nous parlons là, mais on se met pas un peu à la place de Dieu pour ressentir ce qu'il ressent. C'est une humiliation pour Dieu. Chaque fois qu'un de ses enfants se retrouve à fricoter avec Satan, qui a essayé de lui faire un coup d'état, et que n'eût été que Dieu a été plus fort que lui, il voulait la vie de Dieu. Vous imaginez le culot? Et un gars comme ça, aller les uns après les autres ou les unes après les autres tes filles. Tu fais quoi? Dieu a trouvé la solution de la croix. Si je caricature, même si ce n'est pas exactement ça, c'est comme si Dieu a dû trouver des gens qui se font passer pour des bandits aussi, qui rentrent dans le clan des bandits et qui essaient de séduire ses filles. Puisque le chef bandit a demandé aux bandits de la ville de séduire toutes les filles du roi afin de les faire condamner, ça veut dire que les filles sont manifestement sensibles aux garçons drogués. Le roi est obligé de demander à certains de ses collaborateurs un peu fidèles d'aller se faire passer pour des drogués pour séduire ses filles, en espérant qu'au moins, il va les ramener sur le bon chemin. Vous êtes ces infiltrés que Dieu envoie pour dire, regardez ce qui se passe. Allez voir si vous pouvez sauver quelques-unes de mes filles. Il y en a qui vont devoir partir à l'enfer. Je ne peux pas me renier. Mais j'ai encore 2 ans. J'ai encore tel nombre d'années avant de frapper. Pendant ce temps, essayez de voir si vous ne pouvez pas les racheter. C'est pour ça que quand on comprend ce dont il est question, le chrétien n'a pas d'ennemis. Quand les chrétiens font comme si les païens étaient leurs ennemis, c'est une grande imbécilité. L'ennemi du chrétien, ce n'est pas le féticheur. Ce n'est pas le sorcier. Le chrétien n'a pas d'ennemis. Toutes ces personnes-là ne sont que les victimes de Satan. Le seul ennemi du chrétien, c'est l'esprit qui anime ces gens-là. C'est l'esprit satanique qui les fait se comporter comme Satan. Vous-même, là, ce que vous faisiez avant d'être chrétien, là, si vous prenez le temps d'y penser un peu, si vraiment Dieu permettait qu'on attire le feu sur toute chose qui se comporte comme vous, vous ne seriez peut-être jamais vivant jusqu'à rencontrer le Seigneur. Dieu use de patience afin que tous parviennent à la repentance. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez des fois des gens faire des choses, disent, pourquoi Dieu ne le frappe pas? Pourquoi Dieu ne le frappe pas? Si Dieu frappait si vite que ça, vous-même, vous auriez été frappé il y a longtemps avant d'avoir l'occasion d'entendre Dieu. Dieu donne aux gens la chance. Pas la chance de continuer de faire des bêtises, mais la chance de tomber sur quelqu'un qui va, par sa grâce, toucher leur cœur et qui va leur permettre de se repentir. Cela veut dire que, quoi que les gens vous fassent, vous devez comprendre qu'ils ne sont rien. Ils ne sont pas le problème. C'est pour ça, je crois, Paul dit, nous ne sommes pas en train de combattre la chair et le sang. Ce n'est pas ça le problème. Nous combattons les esprits, les dominations, les principautés qui les animent. Quand quelqu'un est méchant, quand quelqu'un veut te tuer, quand quelqu'un veut te nuire, ce n'est pas lui, il n'est que la marionnette d'un esprit satanique. Et l'autorité que nous avons, ce n'est pas de casser, de briser des hommes. Dieu ne veut pas qu'on brise ses enfants. Aucun père ne donnera à un grand frère l'autorité de tuer ses petits frères, quels que soient qui ils sont. Vous n'avez jamais vu un père qui dit, comme ton petit frère est mauvais, je donne l'autorité de le tuer. Ça n'existe pas. Au mieux, il va dire, je vais le frapper moi-même, mais tu ne le touches pas en mon absence. C'est ça qu'un père fait. Donc, vous n'avez pas autorité à juger, à tuer qui que ce soit au nom de Jésus. Dieu merci. Sinon, je ne sais pas s'il retirerait qui que ce soit parmi les pécheurs. Mais vous avez autorité à lier, à briser, à marcher, à massacrer, à détruire, à humilier, comme Jésus l'a déjà fait à la croix, les esprits qui les utilisent pour créer le désordre. Il y a beaucoup de gens qui sont méchants envers nous, que nous n'arrivons pas à vaincre, parce que nous les combattons au lieu de combattre l'esprit qui les anime. En réalité, les gens qui nous persécutent sont les gens que nous sommes venus pour sauver. Regardez une maman. Combien de mamans ne se voient pas gifler, humiliées, maudites, traitées de tous les noms par la fille qu'elles ont portée 9 mois dans leur ventre, pour laquelle elles souffrent, elles ne dorment pas, elles ne mangent pas, elles sont prêtes à tout, parfois même à se prostituer pour nourrir un enfant. Un jour, cet enfant-là les gifle en public. Regardez bien dans la vie. Quand une femme est en train d'accoucher, si elle a un couteau, elle est capable de poignarder la sage-femme. Quand elle atteint un certain niveau de douleur, elle peut te gifler, elle peut te cogner, elle va t'insulter, elle va te traiter de tous les noms. Je connais des gens qui ont giflé des sages-femmes. C'est-à-dire que si elles avaient des couteaux, elles auraient pu poignarder les sages-femmes. Alors qu'à ce moment précis, malgré l'apparence que la sage-femme leur fait mal, la sage-femme est en train de les sauver, de sauver leur enfant. Il est dans la destinée de tous ceux qui veulent donner la vie que de prendre des coups de ceux pour qui ils se battent. Il est dans la destinée de tous ceux qui veulent donner la vie de prendre curieusement des coups de ceux pour qui ils se battent, de ceux auxquels ils veulent donner la vie. Si vos parents, papa et maman devaient compter tout ce que vous leur avez fait comme affront, je ne pense pas que vous seriez heureux. Parce que si on regarde les sacrifices que nos parents endurent pour nous donner la vie, pour nous faire grandir, c'est évident qu'ils ont pris des coups de nom. Si vous êtes un dirigeant, vous vous battez jour et nuit pour sauver un peuple, c'est lui qui vous persécutera. Qui que vous soyez, sachez qu'il est dans l'ordre normal des choses. Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Il n'est pas mort à la croix parce qu'il le méritait. Il est mort à la croix de la main des gens pour lesquels il fallait qu'il meure. C'est ça l'ironie du sort. Et quand Jésus dit, prenez votre croix et suivez-moi. Soyez mes disciples. S'ils ont persécuté le maître, pourquoi le persécuterait-il pas les disciples? Vous devez savoir que quand vous entrez dans un milieu, vous avez affaire à des gens qui sont comme drogués par l'ennemi. Vous venez pour les sauver, mais ils vont tous se jeter sur vous pour vous déchiqueter. Ce n'est pas eux qui se jettent sur vous. C'est l'esprit qui est en eux qui voit que vous êtes venu pour les délivrer, qui essaie de les utiliser parce que là, ils ne sont que ces marionnettes pour vous détruire avant que vous les délivriez. Cela veut dire que plus vous voulez faire du bien à quelqu'un, plus il est violent envers vous. Ce n'est pas lui qui est violent. C'est l'esprit que vous voulez chasser qui l'utilise pour vous détruire avant que vous ne détruisiez l'esprit. Quand vous le savez et que vous avez choisi de sauver quelqu'un, plus vous donne des coups, plus vous devez l'aimer. On ne peut pas en vouloir quelqu'un qu'on est venu sauver parce qu'il nous a donné des coups. Parce que l'esprit qui l'anime, le sachant, va toujours faire en sorte qu'il vous donne des coups. Mais on ne peut pas atteindre ce niveau de foi où on est prêt à prendre des coups. On est prêt quasiment à mourir. Il ne s'agit pas de jouer le petit héros pour dire « Bon, j'ai coulé mon sang, je vais mourir les armes à la main. » La Bible nous dit quelque chose que j'aime beaucoup. Même si vous mourrez en martyr, si vous le faites sans amour, vous n'avez rien fait. L'enjeu n'est pas de dire « Je peux couler mon sang. » L'enjeu, c'est de comprendre. C'est-à-dire d'avoir la grâce de comprendre le cœur de Dieu. De comprendre à quel point Dieu est triste, en griffe, de voir des gens sur le chemin de l'enfer. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas aussi ce qu'on appelle l'enfer. Moi, j'ai commencé à comprendre ces choses-là quand j'ai découvert ce qu'on appelle l'enfer. Parce que le monde moderne a réussi une chose extraordinaire. On a réussi à faire oublier aux gens l'enfer. Les gens croient encore à la limite un peu au paradis. Mais il y a une théorie qui a circulé qui consiste à dire quand on meurt, on va au paradis ou on ne va nulle part. C'est-à-dire c'est rien ou le paradis. Et même moi, je me suis dit pendant longtemps de ma vie, bon, si c'est rien, quand je dors, c'est rien, je ne souffre pas. Franchement, rien serait encore mieux que la vie. Donc, si en ne suivant pas Dieu, je ne risque rien d'autre que rien, franchement, c'est pas grave. Ceux qui vivent avec lui, tant mieux. Mais si je ne risque rien, le problème. Et ça, c'est l'une des plus grandes réussites de Satan, d'avoir fait oublier aux gens l'enfer. Mais quand vous découvrez l'enfer, quand vous découvrez que tous ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus sont condamnés de manière presque irréversible à l'enfer, quand vous découvrez que l'enfer est sans fin, attendez, le paradis, c'est quoi? C'est, je dirais, 1 milliard, ou je ne sais même pas quel chiffre utiliser, 1 milliard de fois mieux que ce que vous pouvez espérer de mieux. Il n'y a rien, votre tête n'est même pas capable d'imaginer le bonheur du paradis. Ça, c'est certain. Essayez de vous rappeler les moments où vous avez eu l'impression que vous étiez vraiment sur un nuage, vous n'avez jamais eu ce niveau de bonheur, et considérez que ça ne fait même pas 1 milliardième du paradis. C'est tout ce que vous souhaitez multiplier par l'infini. 1. 2. C'est cela définitivement pour l'éternité. L'éternité, ça veut dire que ça ne s'arrêtera jamais. On ne dort pas au paradis. On ne meurt pas au paradis. Cela veut dire que si vous êtes au paradis, vous allez nager dans le bonheur sans limite, sans fin, à l'infini, pour toujours. Même si ça vous plaît de quitter le paradis, vous ne pouvez plus. Et ça m'étonnerait que ça puisse vous plaire. Je précise, soit dit en passant, que le paradis a plusieurs quartiers. Ça, les gens l'oublient. Au paradis, il y a des quartiers faussants. Au paradis, il y a des avotros. Au paradis, il y a des guillets. Mais au paradis, il y a des quartiers Jacques, il y a des Fensad, il y a des Rivan. Au paradis, il y a la salle des noces, où vous êtes vraiment proche du maître. Au paradis, il y a des rois. Et il y a des gens qui ne sont pas des rois. Il y a une hiérarchie au ciel. De toute évidence, où que vous soyez au ciel, même si vous êtes dans les avotros du ciel, franchement, c'est 1000 fois mieux que sur la terre. Mais si vous pouvez être un roi au ciel, c'est encore mieux que d'être dans un avotre du ciel. Mais visez déjà le avotre. Et c'est pour ça, par exemple, quand on dit que quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il est définitivement sauvé. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus va aller forcément au ciel. La question, c'est dans quel quartier il sera au ciel. Mais il ira au ciel. Parce que Jésus l'a racheté. On s'en fout de qu'est-ce qu'il a fait, il est acheté. Maintenant, l'enfer est exactement la symétrie en sens opposé du paradis. Imaginez ce qu'on peut faire de pire à un homme. Ce qu'on peut souffrir de plus atroce, de plus douloureux, de plus horrible. Imaginez que vous le viviez 1 milliard de fois plus en intensité, avec l'impossibilité de somnoler, de dormir ou de mourir. Les gens n'ont rien sur la terre, ils ont envie de se suicider. Je crois que là-bas, en enfer, ils ne doivent pas passer 1 minute à avoir envie de se suicider. Le problème, c'est qu'il n'est plus possible de mourir, ni de dormir. Vous allez souffrir, je ne vous le souhaite pas au nom de Jésus, le pire pour toujours. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a rien. C'est pour toujours à toujours. Ce n'est pas 1 milliard d'années, ce n'est pas 2 milliards d'années, c'est pour toujours. Je suis convaincu, depuis que j'ai compris ce qu'est l'enfer, que qui que ce soit, même si quelqu'un vous a égorgé, si vous vous retrouvez au paradis, vous le voyez en enfer, vous allez pleurer pour lui, vous allez demander à Dieu d'avoir pitié de le ramener. Dieu ne le fera pas, mais vous allez avoir pitié. Quand vous connaîtrez ce qu'on appelle l'enfer, même celui qui a pris, vous avez 10 enfants, il a tué tous vos 10 enfants, vous n'allez pas souhaiter qu'il aille en enfer si vous savez ce qu'on appelle l'enfer. C'est impossible. Écoutez, quand quelqu'un vous cherche querelle là, quand vous avez l'occasion de vous venger et que vous arrivez à vous venger un peu, au premier coup, quand la personne accuse bien le coup, vous avez en même temps pitié de lui. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour que l'homme ait pitié encore de ceux qui l'attaquent. Vous souhaitez faire mal à des gens. Mais si Dieu décide de les envoyer en enfer, vous-même, vous ne pouvez pas supporter ça pour eux. Donc, quand vous savez ce qu'est l'enfer, vous comprenez pourquoi Dieu dit que quand un seul chrétien, quand une seule âme donne sa vie à Jésus, le ciel entier est en fait. Il n'y a rien de plus important pour Dieu que de sauver une âme. Parce qu'imaginez un père qui a le niveau d'amour qu'on dit que Dieu a et que nous voyons que Dieu a, voir des millions, des milliards de ses enfants en train de brûler pour l'éternité. Je me demande comment il va faire pour être heureux dans ces conditions. De manière irréversible. Et donc, il use de patience dans l'espoir que le maximum soit détourné du toboggan de l'enfer. Parce que le diable a mis en place un toboggan, hein, ce n'est pas un chemin. C'est un toboggan, vous êtes dessus, vous glissez, il faut vraiment un miracle pour que vous ne tombez pas. Quand vous êtes parti du toboggan là, c'est fini. Les chrétiens sont des commandos chargés de récupérer des gens qui sont déjà sur le toboggan de l'enfer. Quand vous regardez votre père, vous regardez votre mère, vous regardez vos frères, vous regardez vos amis, vos collègues qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ce n'est pas une question de il n'est pas venu à l'église, ce n'est pas grave. Prenez 2 minutes et imaginez-le dans l'enfer. Et vous découvrez subitement que rien ne peut être prioritaire dans la vie d'un homme que d'empêcher quelqu'un d'aller en enfer. Je crois que pour avoir le zèle de l'évangélisation, pour comprendre ce que Dieu attend de nous et pour le faire, il faut comprendre pourquoi il veut qu'on le fasse. Si vous croyez que Dieu veut que vous alliez évangéliser les gens, vous les sauviez pour le plaisir de les sauver, parce que bon, il veut qu'il y ait beaucoup de gens à l'église, vous vous comporterez comme vous vous comportez là. Mais si vous savez que tel frère que j'aime, telle soeur que j'aime, tel ami que j'aime, vous découvrez ce que ça veut dire, là où il va, tel qu'il se comporte là. Moi, il y a des fois, je vois des gens dans la ville, ils font des choses pour m'énerver, mais je me mets à prier pour eux. J'ai mal pour eux. Parce que quand quelqu'un vous provoque, quand quelqu'un essaie de vous faire mal, et que vous connaissez Dieu, il ne fait que vous révéler. C'est un appel au secours. Parce qu'il essaie de vous faire mal. Mais vous découvrez, c'est-à-dire que celui-là ne connaît pas Jésus. Et si vous connaissez Jésus, vous savez que lui-là, je le vois comme ça. Moi, je vois des gens mourir. Je ne donnerai pas de nom. Mais ma première question, c'est, les gens se perdent leur temps, on parle d'enterrement, on parle de folklore. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je dis, mais Seigneur, est-ce que lui-là, il allait en enfer? Avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a reçu comme applaudissement, comme honneur sur cette terre. Tout ça là, n'est que vanité. C'est vrai que celui-là va brûler dans le feu éternel. Et je commence à dire, Seigneur, j'espère que tu as une dose de miséricorde qu'on ne connaît pas qui va sortir au dernier moment pour nous surprendre. Mais je cherche, je ne vois pas qu'est-ce qui le justifie dans la parole de Dieu. Et quand quelqu'un meurt, il est mort, c'est fini. Priez pour les âmes des repos, priez pour que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, là, c'est de la foutaise. Il n'y a pas de prière possible pour celui qui est mort. Un homme ne peut se sauver que par ce qu'il fait quand il est vivant. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer le jour de la Toussaint, de prier pour que quelque chose se passe dans la vie du mort. Le mort, il a fait sa vie. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Si vous sentez le besoin de prier pour les gens qui sont morts, transformez cette règne-là dans le salut des gens qui sont vivants. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour mort. Le mort ne peut rien faire pour vous. Ah, toi qui es le courant comme il, c'est des foutaises. Il ne peut rien pour toi là où il est. Et tu ne peux rien pour lui là où tu es. Mais tu peux vivre pour que tes enfants aillent au ciel. Tu peux vivre pour aller au ciel. Quand tu vois quelqu'un en train de boire, quelqu'un en train de se saouler, quelqu'un en train de se prostituer, quelqu'un en train d'être méchant, quelqu'un en train de faire le contraire que Dieu dit, il faut voir en lui un mort éternel. Vous découvrirez, quand vous connaîtrez la parole de Dieu, que la mort ici-là, ce n'est rien. La preuve, Dieu a demandé à Moïse de mourir. Mais Moïse est au ciel. Les Paul, les Pierre, les Étienne, ils sont morts pour Dieu. Pourquoi vous croyez que les amis de Dieu, les grands hommes de foi meurent en souriant. Quand vous connaissez Dieu, quand vous avez reçu la révélation de qui est Dieu, vous direz comme Paul, la mort m'est un gain. C'est quoi la mort? Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des commandos envoyés du ciel pour faire un travail sur la terre. Il n'y a rien de mieux que de retourner dans ta patrie. Les gens ont peur de mourir. La terre, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous avez de bon ici? Il n'y a pas un jour où un homme peut ne pas avoir de problème. Avec le Seigneur, nous sommes dans la paix. Nous combattons dans la victoire, pas pour la victoire. Mais nous combattons. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Le monde est un monde de tribulations. Mais le repos, c'est de retourner au Père. La mort n'est pas un problème. La mort, c'est la fin du camp militaire. La mort, c'est la fin du pèlerinage. La mort, c'est la fin de la course. Pour retourner dans le repos de Dieu. Effectivement, si vous comprenez ça, la mort est un gain. Mais la vie aussi est un gain. Pourquoi? Parce que pendant que vous vivez, vous avez une occasion d'au moins faire quelque chose pour rendre grâce à ce Dieu qui vous a aimé et vous donnera la vie. Et quand vous savez ce que je sais là, ce que je vous dis là, quand vous voyez Dieu en train de garder ses enfants aller en enfer, qui vous dit, petit, je te laisse là, essaie de m'aider à en sauver quelques-uns. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous, hein. Regardez bien. Dieu ne demande rien à l'homme. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a rien à cirer de nous. La seule chose qu'il nous demande, parce que ça ne peut pas le faire sans nous, c'est ça. Prêchez-leur l'évangile pour que je puisse, à travers votre évangile, toucher leur cœur. Regardez bien. Qu'est-ce que Dieu nous demande d'autre que ça? Qu'est-ce que vous avez offert à Dieu d'autre que ça? Rien. Rien du tout, vous ne pouvez lui offrir. S'il y a une chose qu'un homme peut faire pour que le ciel, c'est pas Dieu seul, hein, pour que le ciel soit en fait, c'est d'intercepter quelqu'un sur le chemin de l'enfer. Parce que chaque personne qui va en enfer, c'est une victoire pour Satan contre Dieu. Et non seulement une victoire, mais une humiliation de Satan à Dieu. Quand vous comprenez ça, vous ne pouvez pas vivre dans une maison, vous avez 20 voisins, vous êtes là pendant 2 ans, vous dites que vous êtes chrétien, vous mettez autocollant sur votre voiture, on voit poisson, in God we trust, Jésus est Seigneur, ce genre de bêtises. Quand on est chrétien, on n'a pas besoin de mettre autocollant sur sa voiture. On doit le sentir quand on vous voit. Nous avons plein d'intellectuels, plein de cadres, plein de gens qui sont bénis par Dieu. Vous ne les verrez jamais parler de Dieu en public. Et ça, c'est normal. C'est arrivé à telle enseigne que les gens ont l'impression qu'il n'y a que des pauvres dans l'église. Parce qu'il n'y a que les pauvres, les gens qui sont malheureux, les gens qui curieusement ont reçu le moins de bénédictions du Seigneur, qui s'exposent à inviter d'autres à venir au Seigneur. Mais ceux qui ont été bénis en abondance, ceux qui ont reçu de grandes grâces du Seigneur, sont trop orgueilleux pour s'humilier à défendre le Seigneur en public. Vous ne les verrez jamais. On ne peut pas être un DG chrétien et ne jamais parler de Jésus à ses collaborateurs. On ne peut pas être un ministre chrétien, ne jamais parler de Jésus à ses collaborateurs. On ne peut pas être un président chrétien, ne jamais parler de Jésus à ses collaborateurs. On ne peut pas être quelque part un chrétien et ne pas avoir pour obsession au quotidien que tout le monde soit sauvé. C'est même méchant de vivre avec des gens en s'en foutant de les voir aller en enfer. C'est méchant. Si vous vous en foutez de sauver des gens, vous êtes méchant, criminel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est égoïste. Vous avez été sauvé du chemin de l'enfer parce que quelqu'un a pris le risque de parler de Jésus. Et vous, je connais Jésus, je suis dans mon salon. Si quelqu'un va à Jésus, c'est son problème, c'est pas moi qui ai parlé, je ne suis pas pasteur. C'est moi, je suis pasteur. Et je le dis toujours, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de bénédiction. Dieu dit que quand un général envoie quelqu'un en mission, il lui donne forcément l'équipement pour la mission. Quand vous envoyez quelqu'un combattre, vous l'équipez pour le combat. Et les équipements, les moyens, les provisions que vous donnez à quelqu'un sont toujours proportionnels au combat ou aux missions qu'il a en cours pour vous. Si je te confie d'aller me faire prisonnier, le président américain, il va quand même falloir que je t'équipe en armement, en milliards, en batterie de choses. Mais si c'est le président béninois que je te demande d'aller chercher, même si je t'équipe, il ne faudra pas beaucoup de choses. On est d'accord. Plus la mission est grande, plus les provisions pour l'accomplir sont grandes. Si je vais envoyer quelqu'un marcher de Fifagi, là, marcher des tomates, je n'ai même pas besoin de donner l'argent des émigrants. Il va aller à pied. Mais si je vais envoyer quelqu'un m'acheter du haricot à Glasgow, je vais lui donner déjà beaucoup plus de moyens. Si je demande à quelqu'un d'aller me chercher un ordinateur à Paris, je vais lui donner moins de billets d'avion, lui-même il va entrer dans l'avion, il va passer à l'aéroport, il va marcher au salon d'honneur et qu'on sort. Si je demande à quelqu'un de me transporter des nourritures pour aller bénir des enfants chinois, je vais peut-être lui donner un cargo ou un bateau. C'est vous dire que Dieu va vous donner des choses proportionnellement à ce que vous êtes en train de faire pour lui. Si vous n'êtes là en train de vivre que pour vous, avec votre copine et votre enfant, avec votre femme et votre enfant, c'est pour 2-3 personnes que vous vivez, Dieu vous donnera le strict minimum pour que les 3 personnes-là ne meurent pas. Il ne vous faut rien d'autre. Mais quand vous devez bénir des milliers de personnes, Dieu vous envoie de quoi bénir des milliers de personnes. Parce que c'est son problème. Si je suis en guerre contre le mal et que je veux impacter des millions de personnes, est-ce que c'est en réalité mon problème? Ce n'est pas mon problème. Arrêtez, moi je gagne quoi dedans? Quand vous combattez pour quelqu'un qui a les moyens, il vous donne tout ce qu'il faut pour réussir le combat. Si vous voulez être béni de Dieu, il va falloir que vous combattiez de grands combats pour Dieu. Et que vous compreniez que les bénédictions que Dieu envoie ne sont pas pour vous. Je donne souvent, et ce n'est même pas moi qui donne la parole de Dieu, nous compare à des vases d'honneur. À des vases d'honneur. Regardez par exemple ce qu'on appelle un vase. Un vase, c'est un récipient, c'est un contenant qui permet de prendre de l'eau. J'ai par exemple le puits, comme par hasard Jésus dit qu'il est la source d'eau vive, la source d'eau intéressable, il est le puits, quand il a rencontré la Samaritaine. Nous sommes censés prendre le vase que nous sommes, prendre de l'eau, donc de l'onction, donc de la puissance au puits. Et quand un vase prend de l'eau, ce n'est pas pour lui. Quel vase boit de l'eau? Le vase va aspirer une infime quantité de l'eau qu'elle prend. Et en général, plus le vase est jeune, je crois, plus ça prend de l'eau. Au bout d'un certain moment, ça n'en prend plus beaucoup, c'est l'inverse. Quelque chose comme ça, on va voir après. Bref, le vase qui prend de l'eau, Imaginez, je prends de l'eau, je suis un vase et puis je dis, regardez, j'ai de l'eau. On dit, oui, et après. Oui, j'ai de l'eau, moi-même, je suis un vase, je suis plein d'eau. Tu es plein d'eau, et après. Le vase qui est utile, le vase qui est connu, le vase qui est applaudi, c'est le vase qui prend de l'eau dans le puits, qui sert rapidement à 20 personnes, qui va en reprendre, qui sert à 30 personnes, qui va en reprendre, qui sert à 50 personnes, qui va en reprendre, qui sert à 100 personnes. Ce vase-là, tout en ayant une contenance, par exemple, d'un litre, peut servir des milliers de litres aux gens dans sa vie. Non pas parce que lui-même, il a trouvé quelque part 1000 litres. Il ne peut jamais coûter 1000 litres. Il ne peut pas attendre d'avoir même 100 litres pour dire, et il y a 1000 personnes devant moi. Je suis un vase d'un litre. Vous me demandez de leur donner à boire comment? Je dis, c'est pas ça ton problème. Le puits est là. Commence. Prends un litre. Donne à trois. Ça va se vider. Si ça se vide dessus le puits, je t'ai dit que le puits est tari. Retourne encore au puits. Pas au vent. C'est ça qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est la puissance, c'est la grâce, c'est les bénédictions de Dieu qui coulent de Dieu vers son peuple à travers des gens qui acceptent d'être des vases. Cela veut dire qu'un vase ne sert à rien s'il n'y a pas un puits. Le vase ne fabrique pas l'eau. Il y a des gens, ils ont la grâce, ils imposent les mains aux malades, les malades guérissent. Ils commencent à se prendre pour prophète des nations, capacité de guérir des gens. Puis c'est le grand prophète, quand il arrive, tout le monde baisse la tête. Il n'est rien, il n'est qu'un vase. Un vase, c'est un vase, c'est un gobelet, il n'est rien. C'est le puits qui a le mérite. Lui, il n'est qu'un serviteur qu'on prend pour transporter l'eau du puits aux gens. C'est ça qu'on appelle un vase d'honneur. Et un vase qui fait le malin, on ne l'utilise jamais. Par exemple, quand quelqu'un achète un vase en céramique ou je ne sais pas trop quoi. Pourquoi qu'il va prendre son vase pour donner à boire aux gens quand ils arrivent? Il va le mettre sur le guéridon quelque part, on va regarder ça. Yéyé. Mais jamais de l'eau ne rentrera dans ce vase-là. Si vous faites trop le malin, vous vous prenez pour qui vous n'êtes pas. Vous ne servirez à rien. Personne ne met de l'eau dans un vase qui est trop important, qui a de la valeur. Quelqu'un va acheter un vase, par exemple en porcelaine, et va mettre de l'eau dedans pour servir ses invités? Non, le vase qui est en porcelaine, qui est trop important, ne va jamais contenir de l'eau. N'est-ce pas? Ça lui plaira. Mais on va dire, toi, tu es trop beau. Comme tu es très important, la laisse, on va te regarder seulement. Mais on ne peut pas mettre de l'eau dedans, ça va se casser. Finalement, le vase de porcelaine a une vie très triste. Il n'aura jamais d'eau à goûter parce qu'il est déjà trop important. Mais le gobelet plastique là, le vase en argile là, c'est pas comme ça, se casse, on va fabriquer un autre. On le prend n'importe qui arrive, c'est avec ça qu'on prend de l'eau. C'est avec ça qu'on donne. On n'a pas peur de servir des gens et que le vase se vide. Le vase est celui qui le tient. Savent que le puits est là. Si ça se vide, retournez au puits. Vous avez 1000 francs, quelqu'un a faim, donnez-lui à manger. C'est vos 1000 francs. D'où les 1000 francs sont arrivés pour être disponibles pour donner à manger. Ça reviendra de là-bas. On a peur d'être une source de bénédiction pour les autres quand on croit qu'on est bénédiction et que la bénédiction va s'épuiser. Si vous comprenez que ce que vous avez à donner aux autres n'est jamais de vous, mais ne vous a été que confié pour leur donner, c'est là où la parole de Dieu nous dit, nous sommes des intendants de Dieu. Un intendant, c'est un gestionnaire des biens de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes propriétaire de rien. Votre propre vie ne vous appartient pas. Si Dieu décide que vous mourrez tout de suite, vous mourrez tout de suite. Donc, quand vous soyez vivant jusqu'à demain matin, ça ne vous fait même pas votre mérite. Alors, vous voulez vendre quoi aux autres qui viennent de vous? Vous êtes en bonne santé, pas paralysé, ce n'est pas votre mérite. Qu'est-ce que vous avez à vendre à quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez? Sans vous puissiez vous vanter pour dire, moi, ça là, c'est pour moi-même. Si je ne veux pas, je ne te donne pas. Qu'est-ce que vous avez qui ne vous a été donné? Rien. Tout ce que vous avez vous a été confié par Dieu parce qu'il veut que vous serviez les gens. Regardez le miracle de la multiplication des deux pains et des cinq poissons. Mais Dieu n'a pas mis les deux pains et les cinq poissons quelque part. Ce n'est pas dans le bol qu'ils se sont transformés en grande quantité. Jésus n'a pas transformé les deux pains en beaucoup de pains ou beaucoup de pain. Regardez bien. Il a partagé un certain nombre de morceaux correspondant à ses disciples. À chacun, il a demandé de le repartager. Chacun le repartageait. Ils ont découvert à la fin du partage que tout le monde avait mangé. Mais à aucun moment, Jésus au début n'a transformé les deux pains en 12 000 pains. Regardez bien. Un pain. Prenez un douzième de pain. Votre douzième de pain, donnez-le encore en un douzième de douzième. Mais au lieu que ça devienne petit, on se rend compte que chacun mange encore. Et on distribue, on distribue. Le miracle se faisait dans la distribution. Et moi, j'en fais l'expérience tous les jours. Si vous devez regarder combien vous avez aujourd'hui et combien vous devez dépenser, vous ne pouvez qu'avoir peur. Et moi, ça me donnait des soucis. Jusqu'au jour où j'ai écouté un homme de Dieu dire à la télé, un Américain, que lui, il passe des nuits entières à pleurer, à se demander comment il va faire. Je dis, comment? Et il explique qu'il dépense 3 milliards par jour. Son ministère chrétien dépense 3 milliards par jour. Orphelinat, école, programme pour les enfants, soutien à des missionnaires. 3 milliards par jour de factures. Ça fait à peu près, si on multiplie par 30, 60 milliards. Voilà, 90 milliards par mois. À l'année, faites le calcul, je vous laisse compter. Mais celui-là se plaint qu'il n'a pas assez d'argent. J'ai dit, mais tu exagères. Mais l'explication, c'est quoi? C'est que quand Dieu te permet de dépenser 3 milliards par jour, c'est que tu as des besoins qui dépassent ces 3 milliards. Le sentiment de pauvreté que nous avons n'est pas lié à ce que nous avons. Elle est liée à l'écart entre ce que nous avons ou ce que nous croyons avoir et ce que nous voyons qu'il faut faire. Quand ce qu'il faut faire est plus effrayant et plus gros que ce que nous avons sur place, nous sommes effrayés, nous disons nous sommes incapables. Ça, c'est la logique humaine. La sagesse de Dieu dit, mettez le pied dans le Jourdain, n'ayez pas peur, il va s'ouvrir. Approchez-vous de la mer rouge, n'ayez pas peur. Quand vous allez être là, je m'en occuperai. Vous approchez, la mer s'ouvre. Allez danser autour du mur de Jéricho. On dit, hé Seigneur, mur de 10 mètres d'épaisseur. Quand il dit danser autour, il dit danser seulement. Vous commencez à danser, le mur s'écroule. On appelle ça le pas de la foi. Il te faut dépenser 1 million. Tu as 100 000, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Fais ce que tu as fait avec les 100 000. Et attends de voir Dieu. À celui qui est fidèle dans les petites choses, on confiera de grandes. Et dit à Zorobabel, ne méprisez pas les petits commencements. Si quelqu'un attend, Abraham aurait pu dire, Seigneur, tu dois quitter chez mon père. Dis-moi d'abord où je vais, prouve-moi où je vais, montre-moi la maison que je vais occuper là-bas. Et dis-moi comment tout va se passer, sinon moi je ne bouge pas. Je ne vais pas laisser ma famille depuis des siècles pour aller rentrer dans le désert. C'est comme ça que beaucoup de gens font. Seigneur, tu veux me bénir? Tu dis de prendre telle direction. Bon, il faut mon billet, il faut mon passeport, la maison, le véhicule de fonction, mon garde-corps. Quand tu m'auras donné tout ça et puis un budget de 1 milliard pour pourvoir tous les besoins, nous allons aller en mission. Tu vas rester là jusqu'à ta mort et à l'enfer. Regardez comment il a fait avec Moïse. Regardez avec les Josué qu'on sort. Dieu envoie toujours les gens dans des missions impossibles, ne vous donnant rien. Même quand Jésus envoyait les disciples évangéliser, il dit ne prenez même pas de chemise, ne prenez pas de porte-monnaie, ne prenez rien. Je crois à part le bâton. Le bâton représente l'autorité que Dieu te donne. Aller en mission sans rien, l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire qu'en chemin, Dieu se débrouille. Et c'est ça la foi. La foi, c'est la capacité à se dire, l'argent ne vient pas de mon travail d'hier. L'argent vient parce que tous les matins, les bénédictions de l'Éternel se renouvellent. Même si je finis tout l'argent que j'ai aujourd'hui pour régler le problème d'aujourd'hui, comme il est dit, demain se suffira à lui-même. Demain, c'est son problème. Si je peux régler ceux qui se posent aujourd'hui, laissez le reste pour Dieu demain. Il s'en débrouille, c'est mon comptable, il se débrouillera pour demain. Et Dieu nous dit, 2 Corinthiens 8, verset 9, « Et Dieu est capable de faire venir à vous tous les jours, quel que soit le besoin. » Toutes, c'est une phrase que j'aime, c'est peut-être mon verset préféré dans la Bible. Plein de superlatifs. « Et Dieu est capable de faire venir à vous. » Ce n'est pas que vous allez aller chercher, hein, on est tranquille, ça vient. « De faire venir à vous tous les jours. » Ce n'est pas que de temps en temps. « Tous les jours. » Quel que soit le besoin. Pas le désir, pas le caprice, pas l'envie, le besoin, le nécessaire, l'utile. Ils auraient pu désirer une caméra haute définition, mais ils avaient besoin de prendre des images. Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils désiraient peut-être un budget, ils désiraient peut-être une caméra, mais ils avaient besoin d'avoir des images enregistrées. Dieu a pourvu tous les jours, quel que soit le besoin, toute sorte. Ils ont eu une sorte de grâce et de bénédiction, de sorte que vos besoins soient toujours pourvus et qu'en plus, cerise sur le gâteau, vous ayez des suppléments pour faire de bonnes œuvres. C'est mon verset préféré dans la Bible. Tous les jours, même quand tu dors, Dieu est capable, si tu crois, si tu as la foi, de faire venir à toi, quel que soit le besoin réel, ce qu'il faut pour le régler. Cela ne prendra pas que la forme de l'argent. Cela ne prendra pas toujours la forme que tu veux, mais il fera ce qu'il faut. Tous les jours, quel que soit le besoin, non seulement il le fera, mais il va te faire en plus le cadeau d'en faire suffisamment pour toi et d'en laisser assez pour semer. Parce qu'il dit qu'il donne à celui qui doit manger la nourriture et au semeur la semence. Quand Dieu te donne une mangue, il te donne quoi manger et te donne le noyau à mettre en terre pour avoir des récoltes de mangue l'année qui suivra. Dieu, quelle que soit ta pauvreté, te donne tous les jours ce dont tu as besoin et tous les jours ce dont tu as besoin pour faire en plus du bien à quelqu'un. Si un jour Dieu ne fait pas ça pour toi, c'est un menteur. Le jour où vous vous réveillez et Dieu n'a pas pourvu à vos vrais besoins, alors que vous avez cru qu'il y pourvoira, Dieu est un menteur. Moi, ça n'est pas encore arrivé depuis. Mais je dis besoin, pas désir. Ce qu'il nous faut, Dieu nous le donne toujours. Si on y croit, si on ne se fait pas des soucis, si on ne s'inquiète pas, si on ne doute pas, tout ce qu'il demande, c'est de croire. Et lui, il fait ça. Mais regardez à quel point les gens n'ont pas des soucis au quotidien. Les soucis, c'est quoi? C'est de se dire, ce Dieu-là, il est tellement peu fiable. Est-ce qu'il va venir demain maintenant? C'est ça, les soucis, ou bien? S'inquiéter pour demain, c'est dire quoi? Donc, il dit, bon, ce Dieu-là, il est tellement peu fiable. En tout cas, il a dit qu'il viendra tous les jours. On l'a qu'à voir. C'est ça, ça veut dire un souci? Ou bien, vous voyez pourquoi Dieu n'aime pas les soucis? Il n'aime pas le stress. Ne t'inquiète de rien. Que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble. Tout est éphémère. Je suis avec toi tous les jours. Je vais voir, j'ai quelques versets que j'aime beaucoup sur la provision. Vous avez par exemple, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni scellé ni grenier. Et Dieu les nourrit. Quel oiseau travaille? Il ne fait même pas de réserve. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Quand même, celui qui est capable de nourrir tous ces oiseaux-là sans effort, c'est vous pour lequel il est venu mourir qui ne va pas être capable de nourrir? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le problème de l'homme, c'est d'essayer de porter sa maison sur sa tête. Jésus dit, dépose la maison, laisse-moi m'en occuper. Où est votre problème avec ça? Pourquoi vous voulez gérer vos problèmes au lieu de laisser Dieu les gérer? Nous avons l'impression qu'il est plus facile de gérer nos problèmes que de laisser Dieu les gérer. Pourquoi? Pourquoi trouvons-nous plus difficile de nous abandonner à Dieu que de prendre les problèmes que lui peut régler? Et c'est ça ce que je reproche à l'école. Parce que nous avons été programmés par l'école pour ne pas pouvoir réfléchir autrement qu'en termes de dépendance au monde. Et je le disais hier, jusqu'à présent, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. On ne demande pas à Dieu le dixième de ce dont on a besoin. C'est quand on a tout fait, rien ne marche, on dit, Seigneur, viens m'aider, viens me sauver. Il n'est pas sapeur-pompier. Jésus n'a jamais, dans cette, quand il se définissait, il a dit bon berger, il a dit beaucoup de choses, il n'a jamais dit sapeur-pompier. Vous n'avez jamais vu quelqu'un au Dieu dit qu'il est sapeur-pompier? Hein? Vous ne remarquez pas que nous traitons Jésus comme un sapeur-pompier? On laisse sa maison, on n'est pas vigilant. Quand le feu a commencé, que tout a brûlé, on appelle le sapeur-pompier pour éteindre le feu. C'est comme ça que les gens traitent le Seigneur? Comme un sapeur-pompier. Quand il a dans le nom de Dieu, là, vous avez vu quelqu'un s'est révélé comme le sapeur-pompier? Un bon berger, il prend soin de ses brebis au quotidien. Quand les brebis dorment, lui ne dort pas. Ils sont mariés, le voient. Quelqu'un est estropié, le prend. Quelqu'un a soif, il lui donne à boire. Quelqu'un a mangé, il lui donne à manger. Quelqu'un est malade, il le guérit. Mieux, quand vous êtes ici aujourd'hui avec un troupeau, le troupeau est en train de manger, tout va bien. Le berger sait que dans 3 jours, la matin va venir. Dans 3 jours, l'herbe sera sèche, on ne pourra plus manger. Dès aujourd'hui, le berger dit, mouton, on change de direction. Le mouton peut dire, mais il y a de la bonne herbe ici, pourquoi il nous fatigue? Il vous fatigue parce qu'il sait qu'il vous faut 3 jours de marche pour arriver au prochain point où il y a de l'eau. Et dans 3 jours, il n'y aura plus d'eau ici. Vous êtes quelque part, tout va bien, votre boulot est confortable. Dieu vous dit, bon, tu bouges. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est tranquille. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Lui sait ce qui va se passer demain, c'est pour ça qu'il dit aujourd'hui, bouge. Ne pleurez rien, non. Rendez grâce à Dieu pour tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ça le bon berger. Le bon berger, je l'ai déjà dit, il vous barre le chemin. On appelle ça aiguillonner. Quand un mouton est en train de prendre direction avec le troupeau, le berger dit, on va à droite. Parfois, le mouton entend. Quand il n'entend pas écrire un certain nombre de fois, qu'est-ce qu'il fait? Il se met avec son bâton. Et si, par exemple, alors qu'il voulait qu'on aille à droite, les moutons sont en train d'aller à gauche, le berger se met à gauche avec son bâton et barre le chemin aux moutons. Quand le chemin opposé à celui qu'il veut est barré, les moutons n'ont pas le choix que de prendre la direction qu'ils veulent. N'est-ce pas? Quitte à leur donner quelques petits coups, quitte à les cogner un peu par le côté où il veut qu'ils tournent. C'est pareil. Dieu dit, va par un coup m'évangéliser des gens. C'est rester à Cotonou qui te plaît. Dieu va te fermer toutes les portes à Cotonou. Il va te faire faillite à Cotonou. Et pendant qu'il te fait faire faillite à Cotonou, quelqu'un va dire, mais si tu venais par un coup, il arrête de moi par un coup. Dieu va dire, tant pis pour lui. Tout ce que tu essaies, il va fermer, fermer, fermer. Tout le monde va là, ça marche. Toi, tu vas là, c'est fermé. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, fous le camp de là, je n'étais pas appelé là. Il y a des difficultés que nous avons dans la vie. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir, mais parce qu'on n'est pas là où il nous a envoyé. Dieu est un Dieu de lieu. Quand il t'attend quelque part, comme tout bon berger, il te bat le chemin contraire pour te pousser à prendre le bon chemin. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie, non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce que Dieu essaie par la force de les ramener sur leur bon chemin. Il faut apprendre à reconnaître aussi la main de Dieu dans son aiguillonnage à travers les circonstances de la vie. Et c'est pour ça que quand nous prions, au lieu de demander tout en Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Ça, c'est les prières d'un bébé. Regardez un enfant. Quand l'enfant a un certain âge, toutes ses demandes, c'est j'ai faim, je veux manger, je veux faire pipi, je veux faire caca, je veux dormir. Il demande, il demande. Mais quand un enfant atteint un certain âge, il ne demande plus que je veux manger. D'abord, est-ce que même un enfant de 15 ans ne dit plus j'ai faim? Il sait qu'il va manger à midi. Quand un enfant a 10 heures, il dit je veux manger. Mais à un certain âge, on ne parle même plus de manger dans une maison. Tout le monde sait que dans tous les cas, on n'a pas besoin de demander à manger. À l'heure du manger, on va manger. D'accord? Donc, vous n'allez pas voir un adulte avoir pour soi une discussion avec son papa ou sa maman, je veux manger? Ou bien, un adulte dit, je veux réussir dans la vie, je veux être célèbre, je veux me marier, je veux être important, je veux sauver mon âme, je veux aller au ciel. Vous allez voir que quand quelqu'un grandit, le niveau de ses requêtes à son supérieur change. Je veux de la promotion, je veux des responsabilités. Il ne dit plus, j'ai faim. Il ne dit plus, j'ai soif. Il ne dit plus, je veux faire pipi. Quand vous voyez les prières de beaucoup de chrétiens, c'est les prières d'un bébé. Papa, j'ai faim. Papa, je veux emploi. Papa, je veux mari. Papa, je veux femme. Papa, je veux pouvoir. Papa, je veux argent. Ça, c'est le jeu bonbon biscuit d'un enfant. C'est bon quand on est bébé. Mais Dieu veut que nous grandissions. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ton intelligence. Donne-moi le discernement. Apprends-moi, quand il y a plusieurs choses devant moi, à reconnaître le bon chemin. Empêche-moi de faire ce qui ne vient pas de toi, parce que ça me créera des problèmes. Ne me fais faire que ce qui vient de toi. Quand j'ai quelqu'un devant moi, donne-moi le discernement de savoir ce qu'il pense, d'avoir la vérité. Conduis-moi. Quand je commence à faire quelque chose qui ne vient pas de toi, Seigneur, évite que je perde du temps. Empêche-moi même de commencer. Seigneur, donne-moi la force. Renouvelle mes forces. Je suis fatigué, mais je me réveille demain en pleine santé. Donne-moi la force, Seigneur. Ils sont en train de me combattre, mais donne-moi de les aimer malgré tout. C'est des prières d'un adulte. Il y a tellement de choses à demander au Seigneur. Seigneur, aie pitié de ce pays. Donne-leur un peu d'intelligence. Évite qu'ils se battent. Donne-leur la sagesse. Montre-leur que tout ça est vanité. Touche leur cœur. Donne-leur envie de se rencontrer. Il y a trop de choses à demander au Seigneur. Mon emploi, mon boulot, un client, un marché, j'ai faim, je veux la promotion. C'est bonbon biscuit. On ne peut pas accepter ça d'un enfant de 18 ans. On peut accepter ça d'un enfant de 18 ans. Si vous avez un enfant de 18 ans, bien, bonjour papa, ça va, j'ai faim. Papa, je veux manger. Papa, je veux faire pipi. Et c'est ça qu'il demande tous les jours. Vous allez vous inquiéter pour votre enfant? Ou bien, si vous en êtes encore à faire des prières, je veux bonbon, je veux biscuit, essayez de réviser vos prières à la hausse. Priez pour le monde. Priez pour vos amis. Priez pour que des gens donnent leur vie à Jésus. Priez pour que des gens soient transformés. Priez pour ceux qui vous persécutent soient touchés. Priez pour que les esprits mauvais qui les animent soient vaincus. Priez pour que l'esprit de colère qui vous touche soit parti. Priez pour avoir la foi. Priez pour être persévérant. Priez pour être endurant. Priez pour que Dieu vous montre le chemin à suivre. Priez pour avoir une révélation de Dieu. Priez pour que vos ennemis soient vaincus. Priez, 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 priez. Il y a tellement de choses à demander à Dieu. Et cherchez toujours premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par surcroît. Je l'ai déjà dit ici, je le répète parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Il y a des choses que nous demandons et que nous ne recevons pas. Simplement parce qu'on n'est pas à la maison. Est-ce que vous imaginez quelqu'un dans la maison de son père et dit à l'heure du repas, pardon, je ne suis pas à me mettre à genoux pour vous, il faut me donner à manger. C'est possible d'être dans la maison de son père, de se mettre à genoux à midi pour manger. C'est possible d'être dans la maison de son père, de sa mère, d'être malade, de devoir leur demander pardon, de bien vouloir te donner un médicament. C'est possible d'être dans la maison de son père, d'être nu et que personne ne dit, viens là, comment tu peux être nu comme ça? Viens prendre cet habit, apporte ça. On ne reste pas comme ça dans ma maison. On peut être dans la maison de son père et puis on va dire que oui, on est venu m'enlever la tôle parce que je n'ai pas payé le loyer. Nous n'avons la plupart des problèmes que nous avons que quand nous quittons la maison de notre père. Comment? À l'âge de l'adolescence, quand nous pensons que nous sommes intelligents, que nous sommes brillants, que nous avons le discernement, quand les garçons commencent à avoir de grosses voix, quand les filles commencent à pousser un peu de sein, on estime que les règles, la loi, les dictats du papa et de maman qui disent « Dans ma maison, ne fais pas ci, tu rentres à 20h, tu ne fais pas ça, on ne s'habille pas de telle manière, on ne fera pas tel cheveux, tu ne feras pas le tatouage. » On estime que ces lois-là sont tellement compliquées qu'on a l'impression qu'il est plus simple de se soustraire de cette autorité, de cette obéissance-là, pour aller faire la belle vie. Si on a un peu de malchance, on vole 500 000 francs à papa, on pense que c'est le million là, et puis bon, on fugue de la maison, on se dit « Bon, maintenant, je vais vivre par moi-même. » On prend un petit appartement, une chambre à coucher, un salon quelque part, ou bien une entrée couchée. Vos amis vous félicitent. Oh, toi, tu es un vrai gars, tu es courageux, tu as de la chance. Et pendant quelques jours, tu vas faire la belle vie. C'est toi qui es le pacha, tu vas claquer l'argent de ton père, tu vivras comme un pacha. Mais rapidement, la vraie vie va te rencontrer. Et c'est là que tu vas connaître tes problèmes. Là où tu mangeais tous les midis sans même savoir comment on a préparé, tu vas commencer à savoir ce qu'on appelle la vraie vie. Le propriétaire, au bout de quelques mois, va te demander de payer le loyer. Tu vas commencer à expérimenter des choses que tu ne savais même pas qu'on avait comme problème. C'est là que tu vas commencer à comprendre tes parents. Et rapidement, si tu es humble, tu vas te dire, si c'est ça là, je préfère encore aller dans la maison de mes parents, leur obéir, que de vivre cette vie. C'est ça l'histoire de l'enfant prodige. Mais si tu n'es pas humble, tu resteras dans le maquis. Tu resteras en fuite, tu appelleras papa, tu dis, papa, tu sais, il ne faut pas te fâcher, hein, tu as dit que tu es gentil, que tu m'aimes, que tu vas me pardonner. Donc c'est vrai qu'actuellement, je suis quelque part dans un ghetto à Donkil avec des prostituées. Mais comme je n'ai plus d'argent, essaie de m'envoyer 100 000 francs pour tenir le temps que je viens à la maison. Est-ce qu'un père qui se respecte peut envoyer de l'argent à un enfant qui, après avoir épuisé ses provisions, sans qu'il ait difficile de tenir dans la pagaille? Il va dire justement, l'argent n'a qu'à bien finir. Quand ça finira, tu viendras à la maison. Moi, je ne t'envoie pas de l'argent là-bas. Parce que t'envoyer de l'argent là-bas, c'est de t'aider à rester là-bas. Quand tu auras vraiment faim, reviens à la maison. Parce que tout ce que tu veux, c'est à la maison. Tu peux avoir tout ce qu'il te faut à la maison. Mais il n'est pas question que tu sois en train de vagabonder dans le monde et que moi, ton père, je t'envoie des provisions dans le monde quand il y a tout à la maison. Si tu veux avoir tout ce que tu demandes là, ce n'est pas la peine de rester à dompter de m'appeler. Reviens à la maison. Et tout ce que tu veux là te sera donné par surcroît. Vous voulez être guéri. Vous voulez être béni. Vous voulez être prospère. Vous voulez être en bonne santé. C'est les païens qui demandent ces choses, a dit Jésus. Quand vous êtes dans la maison de votre père, ça va de soi. Tu te réveilles le matin dans ta maison. Tu as mauvaise mine. Tu es malade. Avant même que toi, tu te rends compte, ta maman te dit, Paul, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas bonne mine. Tu n'as pas bien dormi. Qu'est-ce qui se passe? va à l'hôpital immédiatement, ou prends tel médicament, prends telle tisane. Les mamans sont très fortes en ça. Tu te réveilles, ton habit est déchiré. Ta maman, ton papa dit, ah, tu ne sortiras pas de ma maison avec des rayons comme ça, va te changer. Quand l'heure du repas sonne, quand tu es dans la maison de ton papa, on prépare et on t'oblige à manger. On te supplie de venir manger avant que ça ne se refroidisse. C'est pas toi qui vas faire la queue, prier, jeûner, supplier, qui que ce soit à te nourrir. On a les problèmes que nous avons que quand on a décidé de vivre hors de la tutelle de son papa, parce qu'on trouvait qu'il était plus simple de ne pas avoir obéi que d'obéir. Dieu nous dit la même chose. Vous avez tous ces problèmes parce que vous avez trouvé qu'il est plus simple de ne pas m'obéir et de faire votre vie. Voilà votre vie là. Faites-la. Si maintenant vous découvrez que votre vie là n'est pas douce, pour peu que vous décidez de revenir dans mon royaume et d'obéir à mes lois, tout ce que vous dites là, c'est des faux problèmes. Moi, il y a ça. Les gens ne savent même mes esclaves ne savent pas quoi en faire. Revenez à la maison. Mais dans ma maison, on suit mes règles. Tu ne reviens pas dans la maison de quelqu'un pour rentrer à l'heure que tu veux, pour t'habiller comme tu veux. Si tu es dans ma maison, tu fais ce que je veux. Dieu vous dit la même chose aujourd'hui. Arrêtez de vivre n'importe comment, de faire ce que vous voulez et de vous asseoir une fois par jour pour dire que vous me parlez, de me demander des bénédictions. Je ne vous enverrai aucune bénédiction dans le désert, dans le ghetto. Si vous voulez des bénédictions, vous connaissez chez moi. Vous venez, vous vous habillez comme on fait chez moi, vous vous comportez comme on se comporte comme chez moi. Et sans que vous n'ayez besoin de jeûner, de prier, toutes ces choses vous seront données par surcroît. C'est à vous de choisir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Si vous voulez être béni, le défi à relever, c'est le défi de connaître ce que Dieu veut et de lui obéir. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont intéressés, il y a tous les dimanches ici de 9h à 11h le matin et de 19h à 21h le soir, un culte qui est donné généralement par le pasteur Zéouzé de Faduc. Et ce dimanche, il est en voyage, donc il m'a demandé de venir animer, de venir prêcher au culte le soir. Donc ça va être dimanche ici à 19h. Je vais enseigner sur pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis et qu'est-ce qu'un chrétien doit faire pour porter des fruits. Parce que ça me fait mal de voir plein d'églises, plein de nombreux fidèles qui sont sincèrement chrétiennes, mais dont la vie est une catastrophe. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit hyper tendu. Ce n'est pas normal. Avec tout ce que Jésus a dit sur le cœur, là, un chrétien va être hyper tendu. Un chrétien ne peut qu'être hyper tendu que parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu, ne l'applique pas. Qu'est-ce qui donne l'hypertension? La colère, les soucis, la rancune. Par exemple, Jérémie dit, quand je repense au malheur, aux méchancetés que les hommes me font, mon esprit est abattu. Prendre le temps de méditer la méchanceté des hommes, c'est une imbécilité. Ça abat l'esprit. Personne de sage en Dieu ne s'assoit 2 minutes pour penser à ce que l'homme lui a fait de mauvais. Et c'est alors que Jérémie dit, c'est pour ça que je préfère chaque matin me rappeler des bontés de l'Éternel. Si quelqu'un a pour mot de vie de s'asseoir, de regarder en l'air, le Dominicon, et on commence à penser à la méchanceté des hommes, il est en train de se tuer, il n'y a pas de médicament pour le guérir. Garde ton cœur en joie. C'est de lui que coule la source de la vie. On dit, je suis chrétien. Toujours en train de faire un canablo body. On est toujours en train de se plaindre. C'est ça qui tue. La tristesse est une carie pour les os. Que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble. Fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi tous les jours. Même si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Même si tu es sur les eaux, tu ne seras pas noyé. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ma houlette et mon bâton te protègent. Quand tu dors, moi je ne dors pas, je veille. Qui peut être contre toi quand je suis pour toi? Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit encore sous 1000 autres formes pour dire de ne pas avoir peur? Ne te fais pas des soucis pour le lendemain. Le lendemain se suffira lui-même. Lequel d'entre vous peut par ses soucis allonger sa vie d'un centime? Tu fais des soucis, tu meurs aujourd'hui. Tu peux faire quoi? Regardez bien. Je considère l'hypertension comme la maladie qui illustre le mieux la désobéissance en termes de gestion de la pensée, de gestion des émotions. Et c'est la maladie qui est la plus courante au monde aujourd'hui. Parce que les gens ont des soucis. Parce qu'il y a des problèmes partout. Et parce que si on veut suivre la logique du monde, on aura des soucis. Et si on a des soucis, on va mourir des soucis. Parce que Dieu a prévu que celui qui a des soucis meurt des soucis. Pourquoi? Il vous en sera toujours fait selon votre foi. Avoir des soucis, c'est regarder Dieu de la tête aux pieds, qui dit, n'aie pas peur. De regarder Satan de la tête aux pieds, dit, il dit, reste quand vous finissez. Je ne vois pas tout ce qui se passe par là. N'aie pas peur. Je suis en train de dire fois, je vais voir demain. Tu regardes les deux de la tête aux pieds, tu dis, Seigneur, il ne faut pas te fâcher, hein. Mais je pense que Satan, c'est lui qui dit la vérité. J'ai l'impression que toi, tu es en train de me mentir pour me blaguer. Donc, je t'aime beaucoup, hein, mais il ne faut pas te fâcher. C'est Satan qui dit la vérité. Et comme Satan dit la vérité, qui va avoir des problèmes, laisse-moi avoir peur. Dieu dit, OK, il faut avoir ta peur. C'est une insulte pour Dieu que d'avoir peur. Il faut que vous notiez bien ça. Vous allez voir que rien n'énerve Dieu plus que la peur. Avoir peur, c'est insulter Dieu. De la même manière que Dieu, on dit, des gens comme Abraham, ce qui leur fut compté à justice, c'est la foi. De dire à Dieu, je suis sûr, je peux dormir. Si c'est toi là, je n'ai pas de souci. C'est le plus gros cadeau qu'on peut faire à Dieu. De la même manière, de voir Dieu là, imaginez, vous êtes avec votre petite fille. Elle voit peut-être un petit voyou là, peut-être Arnaud. Et Arnaud dit, je vais te taper. Tu dis, petite, ne lui réponds pas. Et le petit commence à trembler. Papa, il veut me taper. Mais ne pleure pas, je suis là. Papa, il veut me taper. Si toi, tu ne peux rien faire, s'il veut me taper, il va te frapper aussi. Tu vas dire, mais quand même, tu vas finir par gifler ta fille. Tu ne veux pas avoir peur. Si vous êtes là, vous êtes une autorité, vous êtes capable, et que votre enfant a peur de ce qui ne vous arrive même pas à la cheville, votre enfant vous insulte. Votre enfant vous insulte. Quand en votre présence, il a peur de ce qui ne vous arrive pas à la cheville, il vous insulte. Si ton enfant est au CP et il a peur d'un garçon du CE1, alors que toi, tu es un maître karaté, et tu viens à l'école, ton enfant est en train de pleurer, il se met à genoux devant son camarade du CE1. Tu dis, mais là, tu vas dire, non, c'est que si je me lève, il va me frapper. Toi, tu racontes des histoires, papa. Laisse-moi mettre ta genoux devant lui. Oh, toi, tu es ce papa. Tu es un maître karaté. Et il te dit que, de ne pas te fâcher, tu as boîte là, lui préfère se mettre à genoux devant le garçon du CE1, là, sinon il va le frapper. C'est de la moquerie pour toi. Tu vas dire, ok, d'ailleurs, frappe le bien. C'est comme ça, le maman dit, non, il faut le frapper. Un garçon porte-t-on comme ça, je n'en veux pas, il faut le corriger. N'est-ce pas? Mais c'est ça que vous faites. Dieu est là. Et vous trouvez le moyen de vous mettre à genoux devant Satan, passant des nuits à lui faire une offrande de vos soucis. C'est ça qui tue les chrétiens aujourd'hui. Et je trouve regrettable qu'on puisse être chrétien pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et en être encore à pouvoir mourir de soucis. Pourquoi avons-nous été sauvés? Le gars va jusqu'à dire que même si le monde entier manque de nourriture, vous allez manger. Que même si le lionceau ne sait plus quoi manger, vous allez manger. Pourquoi on ne peut pas lui faire confiance? Ne t'inquiète pas, tout concourt bien ceux qui aiment Dieu, tout est grâce. C'est-à-dire, regardez bien, quel que soit le mobile de votre souci, Dieu a déjà répondu à votre souci avant vous. Et vous continuez d'avoir peur. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on va encore dire à ce petit-là maintenant pour qu'il n'ait pas peur? Donc, il a décidé que je suis un menteur. Bon, il faut le laisser. Vous n'avez pas idée comme la désobéissance à la parole de Dieu est en train de tuer des chrétiens aujourd'hui. Et c'est dommage. Parce que le monde attend justement la révélation de personnes. On dit, mais tout le monde a des soucis. Lui n'a pas de soucis. Mais comment ça se fait? On dirait qu'il n'a pas de problème. Il vient nous voir, il voit que tu as tes problèmes. Mais quand même, tu n'as pas de soucis. Il va commencer à dire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai la paix comme le donne Dieu. Et que personne d'autre ne peut la donner. La paix qui est une assurance. Quand Dieu est en vous, vous êtes en paix, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Et la parole de Dieu nous dit, c'est avec Jésus dans la barque. Même si la mer houleuse, lui, dort, parce qu'il sait que ça s'agit seulement. Il ne peut pas être dans la barque, là-bas, va mourir. Vous avez peur. Mais lui, il ne peut pas être dans la barque, là-bas, va mourir. Vous devez atteindre ce niveau de foi, où par la foi, vous chassez même le souci. Le chrétien qui a des soucis est en train de se moquer de Dieu. Ça dit, oui, mais s'il y a des problèmes, je fais comment? S'il y a des problèmes, il a dit, rendez grâce en toutes circonstances. Et quand vous avez des problèmes, priez encore avec des actions de grâce. Vous ne voyez pas? Seigneur, merci. On te gifle. Seigneur, merci. Si tu n'as pas permis qu'il me gifle, il ne va pas me gifler. Il a dit, on va te tuer. Seigneur, merci. Si tu as choisi que je vienne à toi, merci. Maintenant, si tu veux me sauver, je te remercie encore. Dans tous les cas que moi je ne suis qu'un esclave. Et quant à lui, sauve-le de l'enfer. Vous ne pouvez pas avoir ce cœur-là et Satan va faire quoi que ce soit dans votre vie. On ne nous enseigne pas assez ça en tant que chrétiens. Nous prions beaucoup, mais nous n'obéissons pas beaucoup. Nous devons apprendre à obéir à ces petits détails qui font notre vie. Est-ce qu'on a des questions? On va faire notre quatrième séance sur la sagesse. Oui?
Je voulais demander par rapport à la maturité spirituelle. Combien de temps faut-il pour être mature? Sinon, par rapport au temps fixé pour être mature, est-ce qu'on peut être mature avant ce temps?
Et il n'y a pas de temps fixé pour être mature. La maturité est une fonction du temps qui passe et de ce que vous apprenez pendant ce temps-là. Il y a des gens qui, au bout de 20 ans, 30 ans, n'ont rien appris de toutes leurs expériences. Il y a des gens qui, en 2 ans, 3 ans, ont appris de beaucoup moins d'expériences, beaucoup plus. Il y a forcément quelque part la grâce de Dieu dedans. Et il y a aussi le chemin que vous prenez. Quelqu'un qui décide de se nourrir, par exemple, à la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit, au bout d'un an, il est beaucoup plus sage que via de 70 ans qui ne connaît pas Dieu. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'un chrétien, le plus petit des chrétiens, qui connaît la parole de Dieu, est plus intelligent que le vieillard de 70 ans qui est scientifique, qui est docteur, agrégé, je ne sais trop quoi. Parce que ces gens-là, ils ne connaissent même pas la première des vérités. La sagesse commence par la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Donc, tout est vanité dans leur vie. Donc, il n'y a pas un âge, il n'y a pas un temps. Vous allez voir avec des gens comme Timothée, Paul leur dit, mais que personne ne me brise sa jeunesse. Il n'y a pas un âge, il n'y a pas un temps pour avoir de la maturité spirituelle. Dieu a un plan pour chacun, et chacun, selon son obéissance à Dieu, va aller plus ou moins vite sur le chemin que Dieu lui a tracé. Certains, comme Les Israélites dans le désert vont être tellement désobéissants que Dieu va leur faire passer 40 ans. Là, on aurait pu passer un jour pour sortir du désert. Certains même ont été tellement désobéissants, ils n'ont jamais mûri, que Dieu a dû dire, bon, vous l'amourez carrément ici, c'est pas la peine d'aller me polluer la terre promise. Mais il y a des gens qui très rapidement ont compris la leçon. Il y a des gens qui très rapidement ont pris la mesure, ont eu la maturité qu'il faut, et que Dieu a béni de manière extraordinaire. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de durée pour être mature. Il y a une humilité pour être mature, il y a l'abandon à Dieu pour être mature, et surtout, la méditation jour et nuit de la parole de Dieu, quand elle est faite sincèrement, avec un désir de comprendre et d'appliquer, aidée par le Saint-Esprit, vous fait atteindre des niveaux de sagesse à faire pâlir d'envie les gens les plus vieux, les plus sages. Car la Bible dit, Dieu a dit, il va prendre les choses les plus viles pour confondre les sages. Donc il n'y a pas à faire de temps dans cela. Mais c'est qu'est-ce que vous faites de votre temps. Comment vous consommez la parole de Dieu pendant ce temps va déterminer le niveau que vous allez atteindre. Oui?
J'aimerais savoir ce que vous pensez de la réincarnation.
Pour être sincère, je pense que c'est une bêtise. Cette théorie futile prétend que nous avons une vie qui est un cercle fermé. On est, on fait une vie, on meurt. Et puis, bon, notre corps meurt, mais notre âme va, après un certain temps, se réincarner dans un autre bébé qui naît et qui va faire une autre vie pour faire ce qu'on n'avait pas fait avant. D'ailleurs, quand les scientifiques ont des révélations, parce que la plupart des grandes inventions sont le fruit d'une révélation. Regardez bien, faites des recherches historiques, vous allez voir que la majorité des inventions ont été faites par des chrétiens, généralement des Américains. Quand vous prenez le livre des inventeurs, vous verrez 2/3 d'Américains dedans. Vous connaissez combien d'Arabes inventeurs? Quand vous citez les grands noms là, Edison et consorts, vous n'avez pas vu que c'est tous des Américains? Dans la grande majorité des Européens, il y a combien d'Asiatiques dans les inventeurs là? Les Américains sont tous chrétiens, à la base. 90% des grandes inventions sont des révélations du Saint-Esprit. Mais le monde, au lieu d'admettre que c'est des révélations, a fini par, parce qu'ils ont bien dû admettre que ce n'était pas une réflexion. Et donc, ils ont compris que c'est une idée qui vient d'ailleurs. Et comment nous appelons ça? J'ai fait partie de pendant longtemps en philosophie. On appelle ça de la réminiscence. C'est-à-dire le fait qu'une idée brillante vous vienne de l'au-delà. On suppose que vous avez vécu dans une autre vie où vous aviez appris des choses. Et bien que vous soyez mort, comme vous êtes réincarné, votre âme a retenu certaines vérités qu'il avait d'une autre vie et il vous les renvoie. C'est comme ça qu'ils expliquent le fait que le Saint-Esprit donne des idées aux inventeurs. Ouais, que ça ne tient pas debout. Non, ma soeur, c'est des foutaises, ça. C'est même pas la peine que je vous embrouille en vous expliquant ça. C'est de la futilité. Ce serait trop facile. Vous mourrez là, vous êtes définitivement morte. S'il y a quelque chose que vous voulez pouvoir avoir après votre mort, vous feriez mieux de le faire maintenant. Ne vous dites même pas que vous avez 40 ans avant de mourir parce que vous êtes jeune. Hein? On peut mourir demain. Vous avez aujourd'hui pour faire ce que vous voulez faire avant de mourir. Même pas demain. Parce que demain ne vous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Tu peux te réveiller demain, tu ne peux pas te réveiller demain. Si vous avez peur de mourir, il vaut mieux faire aujourd'hui ce dont vous avez peur. Je vous l'aurais dit. Dieu ne me réclamera le sang de personne.
Merci. Ce qui voudra dire que ce qu'on entend souvent, tout se perd ici-bas, là.
C'est vrai. C'est vrai et faux. Ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle tout se perd ici-bas. Quelque part, la Bible nous dit, donc Dieu nous dit, que nul ne s'y trompe. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera forcément. C'est une forme de tout se perd ici-bas. Puisqu'il y a semence, il y a moisson. Maintenant, c'est dans une certaine dimension. Je dirais la troisième dimension, c'est dans les choses matérielles. Tout se perd ici-bas. D'ailleurs, comme les scientifiques disent, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ils ont raison. Regardez bien. Les scientifiques ne créent rien. Ils ne perdent rien. Ils transforment ce que Dieu a créé. Dieu est le seul à appeler les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient. Et avec Dieu, les chrétiens qui ont le pouvoir de la parole peuvent décréter montagne bouge et qu'elle bouge. Aucun scientifique ne peut transformer, ne peut créer. Aucun scientifique ne peut détruire. Ésaïe nous dit, le chrétien, l'enfant de Dieu est établi pour arracher, pour détruire, pour briser, pour reconstruire. C'est une grâce que n'ont pas les scientifiques. Les scientifiques ne transforment que ce qu'ils ont vu. Mais l'homme spirituel, l'homme qui est en Dieu, a le pouvoir de créer, comme Dieu a le pouvoir de créer. Il a le pouvoir de lier, de briser, comme Dieu a le pouvoir de lier, de briser. Donc quand les scientifiques disent rien ne se crée, rien ne se perd, ils n'ont pas tort, mais ils parlent dans leur dimension. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes à l'école. Jusqu'au CM2, on vous dit par exemple 13-25. Vous avez dit, maître, il y a une erreur. 13-25, c'est impossible. Parce que dans l'ensemble N qu'on enseigne au primaire, 13-25, c'est impossible. Ça n'a pas de réponse. Mais dès que vous arrivez en 6e ou en 5e, je ne sais plus en quelle année ça s'enseigne maintenant, si vous découvrez l'ensemble Z, vous découvrez que 13-25 dans l'ensemble Z, ça fait moins 12. Ce qui est impossible pour tous les enfants jusqu'au CM2 devient facile et logique et pertinent pour celui qui est dans l'ensemble Z. Cela veut dire que tout dépend du système dans lequel vous êtes. Dans la troisième dimension, longueur, largeur, hauteur,
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans la quatrième dimension, moi je suis un roi, je crée ce que je veux par le pouvoir de la parole de Dieu. C'est vous qui choisissez votre temps. Voulez-vous vivre comme les rats dans la troisième dimension ou rien dans la quatrième dimension? Voilà tout le débat. Donc, tout se perd ici-bas, dans le sens où si vous semez, vous récolterez. Mais étant donné que la vie n'a pas que pour enjeu ici-bas, mais un enjeu éternel, Dieu merci, par la grâce de Jésus, on peut ne pas avoir payé hors de la troisième dimension ce qu'on a pourtant semé dedans, si entre-temps on s'est mis sous la grâce de la croix. Donc l'enjeu de la croix, c'est de vous permettre, même si en certaines choses, vous payerez ici-bas ce que vous avez semé, de vous éviter de payer là-haut et pour toujours ce que vous avez semé ici-bas. Je vous en prie.
D'accord.
Alors, Dieu seul a la réponse à cette question, mais je vais dire ce que j'en pense. Je ne suis pas Dieu, donc c'est à lui qu'il faudrait poser cette question. Mais ce que je pense, et pour ce que je sais de Dieu, comme je vous le dis, contrairement à ce que les hommes pensent, le pire qui puisse arriver à un homme, selon Dieu, ce n'est pas la mort. La preuve, par amour pour Moïse, il a fait mourir Moïse. Vous allez voir, la plupart des grands patriarches, Dieu leur dit carrément, demain, monte et meurs. C'est Dieu qui appelle. Les gens comme Étienne, quand ils mouraient, Dieu se levait de son siège pour les accueillir. Donc, l'homme pense que le pire qui puisse arriver à un homme, c'est de mourir. Mais ce n'est pas la vie de Dieu. Jésus dit même, vous ne devez pas avoir peur de ce qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Ayez plutôt peur de ce qui tue l'âme. C'est-à-dire que pour Dieu, en réalité, quand vous mourrez ou que vous ne mourrez pas, c'est un détail. Ce qui compte pour Dieu, c'est où allez-vous passer l'éternité. Vous vivez là, c'est combien de temps? 100 ans en moyenne ou en extraordinaire? 100 ans là, à l'échelle de l'éternité, déjà, si on compte même 7000 ans, regardez, c'est ridicule 100 ans. Si on compte l'éternité, dans tous les cas, votre vie, ce n'est même pas une seconde dans l'éternité. Donc, Dieu n'a rien à cirer d'une seconde dans la vie de quelqu'un. Donc, tout ce que vous prenez au sérieux là, pour Dieu, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour Dieu, c'est où vous allez passer l'éternité. De ce point de vue, Dieu, et je crois que c'est ce qui est arrivé à Moïse, par exemple, Moïse a commis un péché qui est celui, d'abord, un peu de l'orgueil, mais surtout, il a frappé le rocher des siècles. Parce que Dieu lui avait demandé de parler au rocher pour sortir de l'eau. Ce rocher, c'est Jésus, puisqu'on l'a découvert plus tard dans le Nouveau Testament, Jésus est le rocher des siècles. En frappant le rocher, au lieu de parler au rocher, Moïse avait prophétiquement, sans s'en rendre compte, je suppose, frappé le rocher des siècles. Il a quand même frappé Jésus, sans s'en rendre compte. Cela veut dire que Dieu a des règles. Il est comme un magistrat assis sur son trône. Et comme le dit la Bible, Satan est l'accusateur de nos frères. En termes juridiques, c'est l'équivalent du procureur de la République. Regardez bien au Bénin, c'est le spécialiste pour accuser les gens. Quand on veut accuser quelqu'un, c'est son métier, c'est lui qui établit l'accusation. La Bible démontre très clairement que Satan est l'accusateur de nos frères. Et la Bible nous dit que quand Jésus a vaincu à la croix, il a précipité l'accusateur de nos frères. Il a vaincu l'accusateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez mourir, Dieu ne prend pas parti. Dieu est le maître. Un roi ne prend pas parti, il juge. Et Dieu qui est justice ne peut pas avoir pour règle de prendre le parti de certains de ses enfants. Tout ce qu'il peut faire, c'est de faire en sorte que ses enfants qu'il aime bien rentrent dans les règles de la justice pour ne pas avoir à subir sa sanction. Si quelqu'un frappe Jésus, il n'est pas normalement possible qu'il ne soit pas puni. Or, la seule punition au ciel, c'est enfer ou paradis. Si Moïse ne payait pas ici-bas pour ce qu'il a fait, quand il irait au port du ciel, Dieu lui-même ne pourrait rien faire à moins de violer ses propres lois pour l'obliger à aller en enfer. Parce qu'il y a un principe de droit que je crois Dieu respecte. Nul ne peut payer pour un crime deux fois. On ne peut pas condamner quelqu'un pour un crime pour lequel il a déjà payé. C'est un principe de droit qui, je crois, est inspiré de la Bible. On ne peut jamais condamner quelqu'un pour un crime deux fois. Si quelqu'un fait un crime qui mérite qu'on le condamne à 10 ans de prison, dès qu'on l'a condamné à 1 an de prison, plus personne ne peut venir le juger et le condamner à 10 ans de prison. C'est pour ça que, par exemple, dans les maisons, quand un enfant fait une bêtise, et que la maman, supposons que vous avez un garçon, il voit un vieux féticheur passer, il dit, toi, mais si vous êtes un papa intelligent, vous le prenez, vous le corrigez promptement devant le vieux, pour que, comment dire, il en décide nous vieux, parce que si vous ne le corrigez pas promptement, et que ce vieux-là rentre chez lui et décide de lui appliquer lui-même la sanction, vous ne pourrez plus jamais revoir votre fils, il va mourir. Cela veut dire que nous savons tous qu'un père qui aime son enfant va promptement le sanctionner, mais en maîtrisant la sanction, pour éviter que plus tard, une sanction pire ne lui arrive. Quand Moïse a fait cela, si Dieu ne l'avait pas puni, quand il va mourir, Satan va réclamer qu'il soit en enfer. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'à la mort de Moïse, les anges de Dieu et de Satan se sont disputés son corps. C'est-à-dire que Satan disait, il me revient ce gars-là. Il a beau ouvrir la main rouge, il a frappé Jésus, il me revient. Et les anges de Dieu vont dire non, il a déjà payé pour ça, Dieu l'a empêché d'entrer à la terre promise. Donc, la condamnation de Moïse à la mort sur la terre, qui est la sanction fatale sur la terre, était somme toute un gros cadeau que Dieu a fait à Moïse pour lui éviter la vraie sanction qui devait être de mourir plus tard sur la terre, mais d'aller en enfer. Si je sais qu'on est dans un pays, oui, tu as volé. Si je te laisse attraper par la police, ils vont te tuer. Je te corrige proprement, moi que tu as volé. Les gens vont dire, mais il aime bien. Il a préféré le corriger que de porter plainte pour qu'on le tue. Je veux dire par là que, dans cette perspective-là, quand quelqu'un aime Dieu, il a vécu avec Dieu, il a marché avec Dieu, il a fait des exploits avec Dieu, il est donc, il a gagné en griffe par la grâce de Dieu le ciel. Dieu et moi, je fais même des fois cette prière, il y a des gens, quand vous avez la salle, je fais cette prière, il y a des gens qui font après pour dire, Seigneur, la veille du jour, je vais te renier, prends-moi la vie. C'est une prière que vous devriez faire. La veille du jour, je vais te renier, prends-moi la vie. Parce que si vous comprenez que l'enjeu de la vie, ce n'est pas la terre, mais le ciel, alors que Satan est très fort, qui peut, à force de vous poursuivre, de vous persécuter, finir dans certains moments de faiblesse humaine par vous piéger et vous faire perdre tout ce que votre vie a acquis pour le ciel, parce qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés. Hein. Le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné. Donc, si vous savez ça, par exemple, vous devriez même prier pour dire, Seigneur, la veille du jour où je vais me préparer à faire le péché contre le Saint-Esprit, il vaut mieux que tu me prennes la vie. Parce qu'il n'y a pas de meilleur cadeau à faire à quelqu'un que de le tuer plus vite pour qu'il aille au ciel, que de le laisser vivre un jour de plus pour qu'il prenne le chemin de l'enfer. Et c'est pour ça que quand certaines personnes ont vécu une vie qui plaît à Dieu, à certains moments, Dieu, sentant qu'ils sont sur le point de prendre une mauvaise direction, préfère dire, bon, maintenant ça suffit, le jeu termine, ramène-moi mon petit. Parce qu'il sait, lui qui voit tout. Dieu est omniscient. Satan n'est pas omniscient. Si Satan était omniscient, il n'avait jamais accepté qu'on crucifie Jésus. Il a dit au gars là, vous ne poignardez pas ce gars-là, ne le flagellez pas. C'est un cadeau que vous êtes en train de faire à Dieu. Laissez-le. Si Satan savait tout, jamais il n'allait laisser quelqu'un crucifier Jésus. C'est parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, Dieu va parfois rappeler rapidement à lui les gens qu'il aime, s'il sait que, pris globalement, c'est le plus gros cadeau qu'il puisse le faire. Oui. C'est écrit. On dit Dieu n'est pas lent à sanctionner, il n'est pas incapable de sanctionner. Mais il use de patience afin que tous parviennent à la repentance. C'est écrit noir sur blanc. Donc, qu'un vieux féticheur, sorcier qui a tué tout le monde vit très longtemps, ayez pitié de lui, essayez encore. C'est-à-dire que Dieu est encore en train de laisser un jour, encore deux jours, pour voir si par hasard, quelqu'un va toucher sa vie pour qu'il dise au dernier jour, je demande pardon, je me répands et qu'il le fasse sincèrement. Auquel cas, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu et qui énerve certains. Un gars peut avoir tué tout le monde pendant 100 ans. Si la veille de sa mort, on lui prêche l'évangile qu'il accepte, il va au ciel comme vous. Pépère. C'est énervant? Non. Et c'est ça l'histoire des ouvriers de différentes heures. Dieu dit, quelqu'un vient le matin à 8 heures, je décide de lui payer un salaire, 10 francs. Un gars vient à 10 heures, je dis aussi 10 francs. Un gars vient à midi, je dis 10 francs. Un gars vient à 18 heures, alors qu'on finit le boulot à 18 heures, je lui paye 10 francs. Les autres disent, mais toi tu vas lui payer 10 francs, alors qu'il est venu travailler 30 minutes, nous on était là depuis le matin. Dieu dit, je t'ai promis tes 10 francs, tu les as eus. Je donne à qui je veux, comme je veux. C'est comme ça que Dieu travaille. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Franchement, je préfère qu'un vieux méchant qui m'a persécuté toute ma vie donne sa vie à Jésus avant de mourir que de le voir en enfer. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu, je veux dire même, quand vous allez voir des gens que vous avez connus vivants, que vous auriez pu empêcher d'aller en enfer, cela pourrait même ternir votre propre bonheur au paradis. Il faut réaliser ce qu'est l'enfer. On a un livre là, un excellent livre, 26 minutes en enfer. Tant que vous ne prenez pas le temps de réaliser ce qu'on appelle l'enfer, vous ne pouvez pas comprendre l'enjeu du combat chrétien. Il faut comprendre ce qu'est l'enfer pour comprendre que quoi qu'il en soit, même s'il reste une seconde, quoi que vous avez fait dans votre vie, si vous demandez secours, Dieu est obligé de vous le donner. Il ne demande que ça. C'est pour ça qu'il dit, j'ai voulu les détruire. J'aurais voulu qu'une seule personne se tienne à la brèche pour me demander de ne pas le faire, mais personne. Parce que vous ne devez pas oublier que Dieu n'est pas injuste. Un homme peut dire, je l'aime, je le protège. Non, Dieu ne prend pas de parti. Il est Dieu. Vous allez voir que quand Josué voulait combattre, l'ange de l'Éternel s'est présenté avec l'épée. Josué lui a demandé, est-ce que tu es de notre côté ou contre nous? Il dit, non, je suis venu prendre le commandement. Dieu ne vient pas pour soutenir qu'un contre l'autre. Il vient faire sa guerre, maître de l'ordre. Donc, Josué s'est fait dire par Dieu, je ne suis pas de ton camp. Moi, je suis venu faire la guerre. Ce n'est pas ta guerre mon problème. À la limite, c'est peut-être toi qui fais ma guerre. Mais moi, je suis venu faire prendre le commandement. C'est pareil dans la vie. Dieu veut que les gens soient sauvés. Jusqu'à la dernière seconde de la vie d'un méchant, ne manquez aucune occasion de l'inviter au salut. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour réjouir Dieu. Et donc, quand des méchants vivent longtemps, c'est que Dieu patiente pour voir si par hasard ils ne vont pas finir par accepter. Parce que quand ils meurent, là, il n'y a plus rien à faire pour eux. Oui.
Merci. Mm-hmm. Et je voudrais dire une chose par rapport à la mort. La mort, en réalité, moi, je l'ai expérimentée, je vais dire. Parce que j'ai eu un accident un jour et j'ai vu juste l'accident se produire, comme ça. Après, je n'ai plus rien senti. J'ai fait 4 jours de coma. Mais la mort pouvait intervenir. Mais c'est juste un rêve. La mort, c'est un rêve. C'est-à-dire, vous rentrez dans le rêve et vous commencez par vivre des choses et puis c'est fini. Si la mort devait intervenir, vous êtes déjà parti. Donc moi, je voudrais rassurer des gens de ne pas avoir peur de la mort. C'est vraiment si douce que on y passe facilement. Voilà.
Sauf si on a pris le chemin de l'enfer.
Oui, voilà. Maintenant, l'enfer en question. Moi, j'ai eu à rêver, à faire certains rêves par rapport à l'enfer. Et par la grâce de Dieu, j'ai écrit un scénario par rapport à l'enfer. Et je vais le réaliser un jour. Parce que si on peut vraiment imaginer, on peut savoir ce que c'est que l'enfer, nous allons nous déchirer notre propre corps, hein, que nous sommes là debout. Parce que c'est en réalité, on dirait que le corps est complice, n'est-ce pas, du péché. Le corps est complice du péché et l'âme qui est tranquille là-bas est cette personne-là qui répond des actes que le corps sème ici. Vous comprenez? Donc, quand j'écrivais au fur et à mesure que j'évoluais dans l'écriture du scénario, moi-même, j'avais peur. J'avais peur parce que je voyais des choses, des vérités. Et je vois ce corps-là couché et son âme qui est déjà en enfer, en train de souffrir. Qu'est-ce que cette âme-là peut dire de ce corps qui n'est que poussière et qui est déjà retourné poussière? Vous comprenez?
Merci. La seule raison d'être d'une vie, c'est d'échapper à l'enfer. Tant que vous n'avez pas compris cela, vous passez à côté de l'essentiel. Trop de gens sont sur le chemin de l'enfer avec allégresse. Quand je vois les enterrements où on boit du champagne, alors que le gars est déjà en enfer, ça me fait pleurer. Il faut arrêter de faire la fête pour les gens qui sont partis en enfer. Les enterrements devraient être l'occasion d'évangéliser les gens. Parce qu'à ce moment-là, au moins, ils se rappellent qu'ils ne sont pas éternels. C'est bon? On peut prier? Alors, on va prier. Excellent Père de gloire, je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'une fois encore, tu as été là. Merci Seigneur parce qu'éternellement fidèle, tu es toujours là. Chaque fois que nous avons le temps de venir à tes pieds, tu es toujours là. Tu réponds toujours avec autant de merveille, autant de brio, autant de célérité. Oh, que ton nom soit béni Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans nos cœurs respectifs aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu as donné à chacun de nous. Merci Seigneur pour ceux et celles que tu as édifiés. Qu'il te plaise Seigneur de faire de ce jour un nouveau départ, une nouvelle naissance pour nous en matière d'acquisition de la sagesse. Qu'il te plaise Seigneur au nom de Christ Jésus de briser tous les liens qui nous lient encore. À ces raisonnements qui s'élèvent contre ta connaissance, à cette sagesse païenne, à cette intelligence, à cette théorie vile qui nous empêche d'ouvrir les yeux, de voir que tu es Seigneur. Seigneur, fais-nous la grâce de revenir à la vérité. Enlève les écailles de nos yeux. Donne-nous de voir la vérité. De voir la vérité. Donne à chacun de nous la force de rejeter toutes ces vérités qui ont pour définition d'aller à gauche, à droite et partout à la fois. Oui, Seigneur, qu'il te plaise de donner à chacun de ceux qui sont ici la grâce de ne plus être jamais l'otage des thèses, antithèses et synthèses. Donne-nous la grâce, Seigneur, de rechercher la vérité, de venir à tes pieds pour apprendre la vérité. Donne-nous d'écouter la vérité, de comprendre la vérité, de mettre en application la vérité, de réussir dans tout ce que nous ferons au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, je te prie, dans notre pays de Bénin, en Afrique en général et dans le monde, de faire échouer encore plus que tu le fais aujourd'hui toute cette théorie païenne, tous ces modèles sataniques qui sont en train de nous embrigader. Toutes ces théories qui donnent l'impression aux gens inavertis qu'elles sont brillantes. Qu'il te plaise, Seigneur, de continuer de les confondre, de les mettre à nu, afin que ceux qui sont de bonne foi réalisent que tu es le seul Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu souffles un vent de ta sagesse, un vent de ta crainte, un vent de ton intelligence, un vent de tes bénédictions, un vent de ta faveur sur notre pays de Bénin. Oui, Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de toi dans ce pays, non pas seulement en chantant, en dansant, mais donne à chacun de nous de s'intéresser à ce pays, d'intercéder pour ce pays, de prier pour ce pays, Seigneur. Oui, donne-nous la force, chacun, d'être des vecteurs de paix. Donne-nous la force, Seigneur, d'être des témoins de Jésus. Donne-nous la force, Seigneur, d'être des gens qui donnent envie. Que par les temps difficiles, on puisse dire en nous voyant, c'est différent pour vous, partagez avec nous le secret. Oui, Seigneur, fais de nous des sujets de réussite extraordinaire. Que quand le monde pleure, nous soyons en paix. Que quand le monde est triste, nous soyons en joie, Seigneur. Que quand le monde est malade, nous soyons guéris, source de guérison, Seigneur. Que quand le monde est pauvre, nous soyons prospérité. Que nous n'en prêtions plus que les autres, mais que plutôt ce soit nous qui le prêtions. Oh Seigneur, fais de nous des témoins. Fais des membres du club Jésus pour réussir une race à part, une race de chrétiens prospères, qui t'aiment, qui te servent, qui t'obéissent, qui sont humbles, mais qui portent des fruits. Oui Seigneur, tu as dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation de tes vrais enfants. Donne-nous la grâce de cela, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu étais là. Merci Seigneur parce que tu bénis chacun dans ses affaires. Tu bénis chacun dans son travail. Tu connais le cœur de chacun de nous. Tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur. Dis seulement, nous serons guéris. Fortifie-nous, éclaire-nous, instruis-nous. Guide-nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir la grâce de l'intimité de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos pensées, de nos paroles, de nos actions et de toutes nos omissions, Seigneur. Nous voulons être tes esclaves. Merci, Seigneur, parce que tu protèges chacun de nous dans son retour. Tu veilles sur nous, tes anges nous accompagnent. Ils sont avec nous partout où nous sommes. Ils veillent sur notre vie.
Il veille à ce que nous obéissions, Seigneur, que nous marchions dans tes voies et que rien ni personne, ni la mort, ni l'enfer, ni les anges, ni la domination, ni rien de tout ne vienne nous séparer de ton amour. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour tout cela et qu'il te plaise de garder ta faveur sur ce pays au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous rappelles tous les jours que nous avons le pouvoir de nous tenir la brèche. Tu as dit que tu as voulu détruire des peuples. Il t'aurait suffi de trouver une seule personne qui élève la voix. Et tu n'as trouvé personne. Qu'il te plaise de toujours trouver au cœur de Jésus pour réussir des gens qui élèvent la voix pour ce pays, des gens qui élèvent la voix pour des gens que tu veux sauver. Fais de nous des intercesseurs. Seigneur, te remercions. Que ton nom soit béni au nom de Christ Jésus. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Fouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?